Chapitre 1. Comment nous avons obtenu le livre de Mormon. Lorsque Joseph a 14 ans, de nombreuses églises disent qu'elles ont la vérité et il ne sait pas laquelle choisir. Un jour, Joseph lit Jacques, chapitre 1, verset 5 dans la Bible. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Joseph a besoin de savoir quelle est la véritable église. Il décide donc de le demander à Dieu. Un matin de printemps, Joseph va dans les bois près de chez lui pour prier. Il se met à genoux et commence à prier. Satan essaie alors de l'arrêter. Joseph prie plus fort en demandant de l'aide à notre Père Céleste. Notre Père Céleste et Jésus-Christ apparaissent à Joseph dans une colonne de lumière. Notre Père Céleste montre Jésus et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. » Joseph demande à quelle église il doit se joindre. Jésus lui dit de ne se joindre à aucune, parce qu'elles sont toutes dans l'erreur. Quand Joseph parle de ce qu'il a vu et entendu à certaines personnes, elles se moquent de lui. Les dirigeants de nombreuses églises de sa région le persécutent. 3 années passent. Un soir, Joseph prie pour que ses péchés soient pardonnés et pour savoir ce qu'il doit faire. Un ange qui s'appelle Moroni apparaît et parle à Joseph d'un livre qui a été écrit sur des plaques d'or. Joseph doit traduire ces plaques en anglais. Après le départ de Moroni, Joseph pense à ce que l'ange lui a dit. Moroni revient 2 fois de plus cette nuit-là. Le lendemain matin, Joseph va au sommet de la colline Cumorah qu'il a vue en vision. Il y trouve une grande pierre. Il soulève la pierre avec un bâton qui lui sert de levier. Sous la pierre se trouve une boîte faite de pierre. Lorsqu'il regarde dans la boîte, Joseph y voit les plaques d'or. Moroni apparaît à Joseph et lui dit de ne pas prendre les plaques, mais de revenir le même jour de chaque année pendant 4 ans. Chaque fois que Joseph y revient, l'ange Moroni lui apprend quelque chose. 4 ans plus tard, Joseph reçoit enfin la permission de prendre les plaques d'or. Il se sert de l'urim et du thummim pour traduire certaines d'entre elles. Des secrétaires aident Joseph en écrivant les mots qu'il traduit à partir des plaques d'or. Joseph apporte le texte traduit à un imprimeur et en fait faire un livre. Ce livre s'appelle le Livre de Mormon. Il parle de personnes qui habitaient sur le continent américain il y a de nombreuses années. Il parle aussi de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Chapitre 2. Léhi avertit les gens. La plupart des gens qui vivaient à Jérusalem 600 ans avant la naissance du Christ étaient méchants. Dieu envoie des prophètes pour leur dire de se repentir, mais ils ne veulent pas les écouter. Léhi est un prophète. Il prie pour que les gens se repentent. Pendant sa prière, une colonne de feu lui apparaît. Dieu dit et montre beaucoup de choses à Léhi. Léhi retourne chez lui et a une vision. Il voit Dieu entouré de nombreux anges. Les anges chantent et louent Dieu. Au cours de sa vision, Léhi reçoit un livre qui raconte ce qui doit arriver. Il lit que Jérusalem sera détruite à cause de la méchanceté du peuple. Léhi dit au peuple que Jérusalem sera détruite. Il parle aussi de la venue de Jésus. Le peuple est en colère et essaie de tuer Léhi. Mais le Seigneur le protège.
Chapitre 3. Léhi quitte Jérusalem. Le Seigneur est content de Léhi et lui parle en songe une nuit. Il dit à Léhi d'emmener sa famille et de quitter Jérusalem. Léhi obéit au Seigneur. La famille de Léhi emporte de la nourriture et des tentes. Elle quitte sa maison, laisse son or et son argent et part dans le désert. Léhi et sa femme Saria ont 4 fils. Laman, Lemuel, Sam et Néphi. Après 3 jours de voyage, la famille de Léhi dresse ses tentes dans une vallée au bord d'une rivière. Léhi construit un autel de pierre et fait une offrande à Dieu. Il le remercie d'avoir sauvé sa famille de la destruction. Léhi donne le nom de Laman à la rivière et de Lemuel à la vallée. Il veut que ses fils ressemblent à la rivière et à la vallée, qu'ils aillent continuellement vers Dieu et qu'ils gardent fidèlement les commandements. Laman et Lemuel pensent que leur père est fou d'avoir quitté Jérusalem et d'avoir laissé leurs biens. Ils ne croient pas que Jérusalem sera détruite. Néphi veut comprendre ce que Léhi a vu. Il prie pour savoir si son père a bien fait de quitter Jérusalem. Jésus-Christ apparaît à Néphi et lui dit que son père a dit vrai. Néphi croit et ne se rebelle pas comme Laman et Lemuel. Néphi dit à ses frères ce que Jésus lui a dit. Sam croit Néphi. mais pas l'amant ni Lemuel. Le Seigneur promet à Néphi qu'il sera béni grâce à sa foi. Il deviendra le dirigeant de ses frères.
Chapitre 4. Les plaques d'airain. Léhi dit à Néphi que le Seigneur veut que ses frères et lui retournent à Jérusalem. Ils doivent obtenir les plaques d'airain des mains d'un homme du nom de Laban. Les plaques d'airain sont des annales très importantes. Elles parlent des ancêtres de Léhi et contiennent la parole de Dieu révélée par l'intermédiaire de ses prophètes. Laman et Lemuel ne veulent pas retourner à Jérusalem pour aller chercher les plaques d'airain. Ils disent que ce sera trop difficile. Ils n'ont pas foi au Seigneur. Néphi veut obéir au Seigneur. Il sait que le Seigneur les aidera, lui et ses frères, à obtenir les plaques d'airain des mains de Laban. Laman, Lemuel, Sam et Néphi retournent à Jérusalem pour obtenir les plaques d'airain. Laman va chez Laban et lui demande les plaques. Laban se met en colère et ne veut pas donner les plaques d'airain à Laman. Laban veut le tuer, mais Laman s'échappe. Laman raconte à ses frères ce qui est arrivé. Il a peur et veut abandonner et retourner avec son père dans le désert. Néphi dit qu'ils ne peuvent pas repartir sans les plaques d'airain. Il dit à ses frères d'avoir plus de foi au Seigneur et qu'ils pourront obtenir les plaques d'airain. Néphi et ses frères vont prendre leur or et leur argent dans leur ancienne maison à Jérusalem pour les échanger contre les plaques. Ils montrent leurs biens à Laban et lui proposent de les lui échanger contre les plaques. Quand Laban voit leur or et leur argent, il les veut pour lui et il chasse les fils de Léhi. Laban dit à ses hommes de tuer les fils de Léhi. Néphi et ses frères s'enfuient et se cachent dans une grotte. Laban garde leur or et leur argent. Laman et Lemuel sont en colère contre Néphi. Ils battent Néphi et Sam avec un bâton. Un ange apparaît et dit à Laman et à Lemuel d'arrêter. Il leur dit que le Seigneur les aidera à obtenir les plaques. Il ajoute que Néphi sera le chef de ses frères. Néphi dit à ses frères d'avoir foi au Seigneur et de ne pas avoir peur de Laban ni de ses hommes. Néphi encourage ses frères à retourner à Jérusalem. Dans la nuit, les frères de Néphi se cachent en dehors des murs de la ville pendant que Néphi se glisse à l'intérieur. Ils se dirigent vers la maison de Laban. Lorsque Néphi approche de la maison de Laban, il aperçoit un homme saoul allongé par terre. C'est Laban. Néphi voit l'épée de Laban et la ramasse. Le Saint-Esprit dit à Néphi de tuer Laban, mais Néphi ne veut pas le faire. Le Saint-Esprit répète à Néphi de tuer Laban pour que Néphi puisse obtenir les plaques d'airain. La famille de Léhi en a besoin pour pouvoir apprendre l'Évangile. Néphi obéit au Saint-Esprit et tue Laban. Puis, Néphi enfile les vêtements et l'armure de Laban. Néphi entre dans la maison de Laban et rencontre Zoram, serviteur de Laban. Néphi a l'apparence et la voix de Laban. Il dit à Zoram d'aller chercher les plaques d'airain. Zoram pense que Néphi est Laban et il lui donne les plaques. Néphi dit à Zoram de le suivre. Laman, Lemuel et Sam voient Néphi arriver et ont peur. Ils croient que c'est Laban. Ils s'enfuient en courant, mais s'arrêtent quand Néphi les appelle. Zoram se rend alors compte que c'est Néphi et non pas Laban. Il essaie de s'enfuir. Néphi attrape Zoram et lui promet de ne lui faire aucun mal s'il veut le suivre dans le désert. Zoram accepte. Néphi et ses frères emmènent Zoram, prennent les plaques d'airain et s'en retournent auprès de Léhi et de Saria. Ils donnent les plaques d'airain à Léhi. Saria et lui sont heureux que leur fils soit sain et sauf. Ils se réjouissent tous et remercient Dieu. Léhi lit les plaques d'airain. Elles contiennent l'histoire d'Adam et Ève et de la création du monde, ainsi que les paroles de nombreux prophètes. Léhi et Néphi sont heureux d'avoir obéi au Seigneur et d'avoir pu obtenir les plaques d'airain. La famille de Léhi met les plaques d'airain dans ses paquets pour les emporter avec elle dans leur voyage et pour pouvoir ainsi apprendre à ses enfants les commandements qui sont inscrits sur les plaques.
Chapitre 5. Le voyage dans le désert. Le Seigneur veut que chaque fils de Léhi ait une femme qui enseigne l'Évangile à leurs enfants. Il dit à Léhi d'envoyer encore ses fils à Jérusalem pour chercher la famille d'Ismaël. Néphi et ses frères retournent à Jérusalem. Ils annoncent à Ismaël ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Ismaël les croit et sa famille et lui accompagnent les fils de Léhi. Pendant leur voyage dans le désert, Laman, Lemuel et quelques-uns des membres de la famille d'Ismaël se mettent en colère. Ils veulent retourner à Jérusalem. Néphi rappelle à Laman et à Lemuel tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Il leur dit d'avoir plus de foi. Ils sont en colère contre Néphi, mais ils ne retournent pas à Jérusalem. Néphi, ses frères et Zoram épousent plus tard les filles d'Ismaël. Le Seigneur dit à Léhi de poursuivre son voyage. Le lendemain matin, Léhi trouve une boule d'airain appelée Liaona devant sa tente. Elle indique la route à suivre dans le désert. Les membres de la famille de Léhi rassemblent de la nourriture et des semences et plient leur tente. Pendant de nombreux jours, ils voyagent dans le désert en suivant les indications du Liaona. Pendant leur voyage, Néphi et ses frères chassent avec des arcs et des flèches pour avoir de la nourriture. L'arc en acier de Néphi se casse et les arcs de ses frères perdent leur ressort. Les frères n'arrivent pas à tuer les animaux et tout le monde a faim. Laman et Lemuel sont en colère. Néphi fabrique un arc en bois et demande à son père où il doit aller pour chasser. Léhi reçoit des instructions par le Liaona. Néphi suit les instructions et trouve des animaux. Le Liaona fonctionne seulement quand la famille de Léhi est fidèle, diligente et obéissante. Néphi revient avec les animaux qu'il a trouvés. Tous les membres de la famille sont heureux d'avoir de la nourriture. Ils regrettent d'avoir été en colère et remercient Dieu de les avoir bénis. Le voyage n'est pas facile. Souvent, la famille de Léhi est fatiguée, a faim et soif. Ismaël meurt et ses filles sont tristes. Elles se plaignent de Léhi. Laman et Lemuel se plaignent aussi. Ils ne croient pas que le Seigneur ait parlé à Néphi. Ils veulent tuer Léhi et Néphi et retourner à Jérusalem. La voix du Seigneur s'adresse à Laman et à Lemuel. Elle leur dit de ne pas être en colère contre Léhi et Néphi. Laman et Lemuel se repentent. La famille de Léhi poursuit son voyage difficile. Dieu l'aide et la rend forte. Des enfants naissent, Léhi et Saria ont deux autres fils, Jacob et Joseph. Après avoir voyagé dans le désert pendant 8 ans, les membres de la famille de Léhi arrivent au bord de la mer. Ils y trouvent des fruits et du miel. Ils appellent cet endroit Abondance.
Chapitre 6. Le songe de Léhi. Léhi parle à sa famille d'une vision importante qu'il a eue en songe. Le songe de Léhi le réjouit au sujet de Néphi et de Sam, mais l'attriste au sujet de Laman et de Lemuel. Léhi voit en songe un homme vêtu d'une robe blanche qui lui dit de le suivre. Léhi suit cet homme dans un désert sombre et triste. Après avoir voyagé dans les ténèbres pendant de nombreuses heures, Léhi prie pour demander de l'aide. Il voit alors un arbre portant des fruits blancs. Ce doux fruit rend heureux ceux qui en mangent. Léhi mange du fruit et cela le remplit de joie. Il veut que sa famille en goûte parce qu'il sait que cela la rendra heureuse elle aussi. Léhi aperçoit une rivière qui coule près de l'arbre. Il voit Saria, Sam et Néphi à la source de la rivière. Léhi appelle sa femme et ses fils pour qu'ils viennent goûter du fruit. Saria, Sam et Néphi approchent et goûtent du fruit, mais pas Laman ni Lemuel. Léhi voit aussi une barre de fer et un sentier droit et étroit qui conduit à l'arbre. Il voit beaucoup de personnes sur le sentier ou qui se dirigent vers lui. À cause du brouillard de ténèbres, certains s'éloignent du sentier et se perdent. D'autres se tiennent fermement à la barre de fer et après avoir traversé les ténèbres, atteignent l'arbre. Ils goûtent du fruit. Des personnes dans un grand édifice de l'autre côté de la rivière se moquent de ceux qui mangent du fruit. Certains de ceux qui ont mangé du fruit ont honte et partent de l'arbre. Léhi voit une multitude de personnes en songe. Certaines se tiennent fermement à la barre de fer et atteignent l'arbre après avoir traversé les ténèbres. Ils goûtent du fruit. D'autres se dirigent vers le bâtiment, se noient dans la rivière ou se perdent. L'amant et Lemuel ne veulent pas manger du fruit. Léhi est inquiet pour eux et essaie de les aider à obéir aux commandements de Dieu.
Chapitre 7. La construction du vaisseau. Après que la famille de Léhi a campé de nombreux jours près de la mer, le Seigneur parle à Néphi. Il lui dit de construire un vaisseau pour emmener sa famille vers la terre promise. Néphi ne sait pas construire un vaisseau, mais le Seigneur lui dit qu'il lui montrera comment faire. Il dit à Néphi où il peut trouver du métal pour fabriquer les outils dont il aura besoin. L'amant et Lemuel se moquent de Néphi parce qu'il veut construire un vaisseau. Ils ne croient pas que le Seigneur a montré à Néphi comment faire. Ils refusent de l'aider. Néphi dit à l'amant et à Lemuel de se repentir et de ne pas se rebeller. Il leur rappelle qu'ils ont vu un ange. Il leur dit aussi que Dieu peut tout faire. L'amant et Lemuel sont en colère contre Néphi et veulent le jeter à la mer. Lorsqu'ils s'approchent de Néphi, il leur commande de ne pas le toucher parce qu'il est rempli du pouvoir de Dieu. L'amant et Lemuel ont peur pendant plusieurs jours. Le Seigneur dit alors à Néphi de toucher l'amant et Lemuel. Lorsque Néphi le fait, l'amant et Lemuel sont ébranlés par le Seigneur. Ils savent que Néphi a le pouvoir de Dieu. Néphi dit à l'amant et à Lemuel d'obéir à leurs parents et à Dieu. Néphi dit que s'ils le font, ils seront bénis. L'amant et Lemuel se repentent et aident Néphi à construire le vaisseau. Néphi va de nombreuses fois dans la montagne pour prier et demander de l'aide. Le Seigneur lui apprend comment construire un vaisseau. Lorsque Néphi et ses frères ont fini la construction du vaisseau, ils savent que c'est un bon vaisseau. Ils remercient Dieu de les avoir aidés.
Chapitre 8. La traversée de la mer. Le Seigneur dit à Léhi d'emmener sa famille sur le vaisseau qu'ils ont construit. Il le charge de fruits, de viande et de miel, ainsi que de graines pour semer en terre promise. Des vents puissants poussent le vaisseau vers la terre promise. L'amant, Lemuel et quelques autres commencent à mal se comporter. Lorsque Néphi leur dit de s'arrêter, ils se mettent en colère et le ligotent avec des cordes. À cause de leur méchanceté, le liaona ne fonctionne plus. Ils ne savent pas dans quelle direction ils doivent aller. Une tempête terrible repousse le vaisseau en arrière pendant 3 jours. Léhi dit à l'amant et à Lemuel de détacher Néphi, mais ils ne veulent pas obéir. Léhi et Saria sont si contrariés qu'ils en tombent malades. La femme et les enfants de Néphi pleurent. Ils supplient l'amant et Lemuel de le détacher, mais ils refusent. Le 4e jour, la tempête s'aggrave. Le vaisseau est prêt à couler. L'amant et Lemuel savent que c'est Dieu qui envoie la tempête. Ils ont peur de mourir noyés. L'amant et Lemuel finissent par se repentir et par détacher Néphi. Ses poignets et ses chevilles enflées à cause des cordes lui font mal. Mais Néphi ne se plaint pas. Néphi prend alors le liaona qui fonctionne de nouveau. Néphi prie. Le vent s'arrête de souffler et la mer se calme. Néphi dirige le vaisseau qui fait voile vers la terre promise.
Chapitre 9. Un nouveau foyer en terre promise. Le vaisseau transportant la famille de Léhi traverse l'océan et parvient en terre promise. Les arrivants dressent leur tente. Ils cultivent la terre et sèment les graines qu'ils ont apportées. En parcourant leur nouvelle terre, ils trouvent de nombreuses espèces d'animaux. Ils découvrent aussi de l'or, de l'argent et du cuivre. Dieu dit à Néphi de faire des plaques de métal pour écrire dessus. Néphi écrit l'histoire de sa famille et de leur voyage. Il inscrit aussi la parole de Dieu. Léhi vieillit. Avant de mourir, il parle à ses fils et leur dit d'obéir au commandement de Dieu. Il bénit aussi ses petits-enfants. Après la mort de Léhi, l'amant et Lemuel se fâchent contre Néphi et veulent le tuer. Ils ne veulent pas que Néphi, leur petit frère, soit leur dirigeant. Le Seigneur dit à Néphi d'emmener les personnes justes dans le désert. Ils se déplacent pendant de nombreux jours vers un endroit appelé Néphi. Les personnes qui suivent Néphi obéissent à Dieu. Elles travaillent dur et sont bénies. Néphi apprend à ce peuple à faire des constructions avec du bois et du métal. Elles construisent un beau temple. Ceux qui suivent l'amant et Lemuel prennent le nom de Lamanites. Ils deviennent un peuple à la peau sombre. Dieu les maudit en raison de leur méchanceté. Les Lamanites deviennent paresseux et ne veulent pas travailler. Les personnes qui suivent Néphi prennent le nom de Néphites. Les Lamanites détestent les Néphites et veulent les tuer.
Chapitre 10. Jacob et Shérem. Avant sa mort, Néphi donne les plaques qu'il a écrites à son frère cadet, Jacob. Jacob est juste. Néphi dit à Jacob d'écrire ce qui aidera le peuple à croire en Jésus-Christ. Néphi donne à Jacob le pouvoir d'être prêtre dans l'Église et d'enseigner la parole de Dieu aux Néphites. Après la mort de Néphi, beaucoup de Néphites deviennent méchants. Jacob instruit le peuple et lui dit de se repentir de ses mauvaises actions. Un homme méchant du nom de Shérem va parmi les Néphites en leur enseignant de ne pas croire en Jésus-Christ. Shérem dit au peuple qu'il n'y aura pas de Christ. Beaucoup de gens croient Shérem. Jacob enseigne au peuple à croire au Christ. Shérem veut discuter avec Jacob et le convaincre qu'il n'y aura pas de Christ. La foi de Jacob en Jésus-Christ ne peut pas être ébranlée. Il a vu des anges et a entendu la voix du Seigneur. Il sait que Jésus viendra. Le Saint-Esprit est avec Jacob lorsqu'il témoigne de Jésus-Christ à Shérem. Shérem demande qu'on lui montre un signe. Il veut que Jacob prouve que Dieu existe. Il veut voir un miracle. Jacob ne veut pas demander de signe à Dieu. Il dit que Shérem sait déjà que ce que Jacob a enseigné est vrai. Jacob dit que si Dieu frappe Shérem, ce sera un signe du pouvoir de Dieu. Shérem tombe immédiatement par terre. Il ne peut pas se relever pendant plusieurs jours. Shérem est faible et sait qu'il va mourir. Il demande aux gens de se rassembler. Il leur dit qu'il a menti. Il dit qu'ils doivent croire en Jésus-Christ. Shérem meurt après avoir fini de parler au peuple. Le peuple sent le pouvoir de Dieu et les gens tombent par terre. Les gens commencent à se repentir et à lire les Écritures. Ils vivent en paix et dans l'amour. Jacob est heureux et sait que Dieu a répondu à ses prières.
Chapitre 11. Énos. Énos est le fils de Jacob. Il garde les plaques et écrit dessus après la mort de son père. Un jour, Énos chasse dans la forêt. Il pense aux enseignements de son père et veut que ses péchés lui soient pardonnés. Énos se met à genoux et prie Dieu. Il prie toute la journée. Il est encore en train de prier quand la nuit tombe. Dieu dit à Énos qu'en raison de sa foi en Jésus-Christ, ses péchés lui sont pardonnés. Énos veut ensuite que le Seigneur bénisse les Néphites. Il prie pour eux et le Seigneur dit qu'il les bénira s'ils obéissent à ses commandements. Énos veut aussi que le Seigneur bénisse les Lamanites. Il prie avec beaucoup de foi et le Seigneur promet de faire ce qu'Énos lui demande. Les Lamanites combattent les Néphites et essaient de détruire leurs annales. Pourtant, Énos prie pour qu'ils deviennent un peuple juste. Énos prie pour que les annales qu'il a gardées soient préservées. Le Seigneur promet qu'il donnera un jour les enseignements qui sont contenus dans ces annales aux Lamanites. Énos prêche aux Néphites. Ils veulent croire en Dieu et garder les commandements. Les Néphites essayent d'enseigner l'Évangile aux Lamanites, mais ils ne veulent pas l'écouter. Les Lamanites détestent les Néphites. Énos passe sa vie à instruire le peuple à propos de Jésus et de l'Évangile. Il sert Dieu et l'aime pendant toute sa vie.
Chapitre 12. Le roi Benjamin. Le roi Benjamin est un roi Néphite juste. Avec l'aide d'autres hommes justes, il apporte la paix dans le pays. Le roi Benjamin devient vieux et veut s'adresser à son peuple. Il doit lui dire que son fils, Mosia, sera son successeur. Les gens viennent de tout le pays et se rassemblent près du temple. Ils orientent l'ouverture de leur tente vers le temple. Le roi Benjamin parle aux Néphites du haut d'une tour pour qu'ils puissent l'entendre. Il dit à son peuple qu'il a vraiment essayé de le servir. Il dit qu'en servant nos semblables, c'est Dieu que nous servons. Le roi Benjamin dit aux gens d'obéir aux commandements de Dieu. Ceux qui gardent fidèlement les commandements seront heureux et vivront un jour avec Dieu. Le roi Benjamin dit que Jésus-Christ doit naître bientôt dans le monde. Le nom de sa mère sera Marie. Jésus accomplira des miracles. Il guérira les malades et ramènera les morts à la vie. Il fera voir les aveugles et entendre les sourds. Jésus souffrira et mourra pour les péchés de tout le monde. Les péchés de ceux qui se repentent et qui ont foi en Jésus seront pardonnés. Le roi Benjamin dit aux Néphites que des hommes méchants fouetteront Jésus, puis ils le crucifieront. Jésus ressuscitera 3 jours plus tard. Après les paroles du roi Benjamin, les Néphites tombent par terre. Ils regrettent d'avoir péché et veulent se repentir. Les gens ont foi en Jésus-Christ et ils prient pour être pardonnés. Le Saint-Esprit remplit leur cœur. Ils savent que Dieu leur a pardonné et qu'il les aime. Ils ressentent de la paix et de la joie. Le roi Benjamin dit à son peuple de croire en Dieu. Il veut qu'ils sachent que Dieu a créé toutes choses et qu'il est sage et puissant. Le roi Benjamin dit aux gens d'être humbles et de prier tous les jours. Il veut que son peuple se souvienne toujours de Dieu et qu'il soit fidèle. Il dit aux parents de ne pas laisser leurs enfants se battre ou se disputer. Il leur dit d'apprendre à leurs enfants à être obéissants et à s'aimer et à se servir les uns les autres. Il avertit les gens de veiller à leurs pensées, à leurs paroles et à leurs actions. Ils doivent être fidèles et garder les commandements pendant le reste de leur vie. Le roi Benjamin demande aux gens s'ils croient à ses enseignements. Ils répondent tous qu'ils y croient. Le Saint-Esprit les a changés et ils ne veulent plus pécher. Ils font tous alliance en promettant de garder les commandements de Dieu. Le roi Benjamin est content. Le roi Benjamin donne à son fils le droit d'être le nouveau roi. Le roi Benjamin meurt 3 ans plus tard. Mosia est un roi juste. Comme son père, il travaille dur et sert son peuple.
Chapitre 13, Zénith. Zénith et un groupe de Néphites partent de chez eux à Zarahemla et se rendent au pays de Néphi, là où d'autres Néphites habitaient auparavant. Ils y trouvent des Lamanites. Zénith et 4 de ses hommes entrent dans la ville pour parler au roi. Ils demandent au roi Laman s'ils peuvent vivre dans son pays. Le roi Laman dit qu'ils peuvent prendre possession de 2 de ses villes. Le roi veut qu'ils habitent dans son pays pour pouvoir en faire ses esclaves. Le peuple de Zénith construit des maisons et répare les murs autour de leur ville. Ils sèment une grande variété de semences et plantent des arbres fruitiers. Le roi Laman dit à son peuple que les Néphites deviennent trop puissants. Bientôt, de nombreux Lamanites attaquent les Néphites et volent leur bétail et leur récolte. Les Néphites se précipitent vers la ville de Néphi. Là, Zénith arme le peuple d'arcs, de flèches, de bâtons, d'épées et de frondes. Ils partent combattre les Lamanites. Avant le combat, les Néphites prient pour demander à Dieu de les aider. Dieu donne plus de force aux Néphites et ils sont vainqueurs des Lamanites. Après la bataille, Zénith place des gardes autour des villes Néphites. Il veut protéger son peuple et leur bétail des Lamanites. Les Néphites vivent en paix pendant de nombreuses années. Les hommes travaillent dans les champs et les femmes filent et fabriquent des vêtements. Le roi Laman meurt et son fils devient roi. Le nouveau roi envoie son armée combattre les Néphites. Les Néphites reçoivent à nouveau la force du Seigneur. Ils tuent de nombreux Lamanites et les autres s'enfuient en courant.
Chapitre 14. Abinadi et le roi Noé. Zénith est le roi juste d'un groupe de Néphites. Lorsque Zénith est vieux, son fils Noé devient roi. Noé n'est pas un bon roi comme son père. Il est méchant et ne veut pas obéir aux commandements de Dieu. Il oblige son peuple à lui donner une partie de ses récoltes, de son bétail, de son or et de son argent. Le roi Noé agit ainsi parce qu'il est paresseux. Il force les Néphites à lui donner tout ce dont il a besoin pour vivre. À la place des bons prêtres que son père a appelés, il met de mauvais prêtres. Ces méchants prêtres enseignent au peuple à commettre des péchés. Le roi Noé fait construire de nombreux bâtiments magnifiques. Entre autres, un grand palais avec un trône. Les bâtiments sont décorés d'or, d'argent et de bois précieux. Le roi Noé aime les richesses qu'il prend à son peuple. Avec ses prêtres, il passe son temps à boire du vin et à être méchant. Dieu envoie un prophète du nom d'Abinadi au peuple de Noé. Abinadi avertit le peuple que s'il ne se repent pas, il deviendra l'esclave des Lamanites. Lorsque le roi Noé entend ce que dit Abinadi, il est en colère. Il envoie des hommes pour amener Abinadi au palais afin qu'il puisse le tuer. Abinadi est amené à Noé. Le roi et ses prêtres lui posent de nombreuses questions. Ils essaient de lui faire dire quelque chose de faux. Abinadi n'a pas peur de répondre à leurs questions. Il sait que Dieu l'aide. Les prêtres sont étonnés des réponses d'Abinadi. Le roi Noé se fâche et commande à ses prêtres de tuer Abinadi. Abinadi dit que s'ils le touchent, Dieu les tuera. Le Saint-Esprit protège Abinadi de manière à ce qu'il puisse finir de dire ce que le Seigneur veut. Le visage d'Abinadi est rayonnant. Les prêtres ont peur de le toucher. S'exprimant avec la puissance de Dieu, Abinadi parle aux gens de leur méchanceté. Il leur lit les commandements de Dieu. Il leur annonce la naissance de Jésus-Christ sur la terre. Jésus donnera aux gens la possibilité de se repentir, de ressusciter et de vivre avec Dieu. Abinadi exhorte les gens à se repentir et à croire en Jésus-Christ. Sinon, ils ne seront pas sauvés. Le roi Noé et tous ses prêtres, à l'exception d'un seul, refusent de croire Abinadi. Noé dit aux prêtres de tuer Abinadi. Il le ligote et le jette en prison. Le seul prêtre qui croit Abinadi s'appelle Alma. Il demande au roi Noé de laisser partir Abinadi. Le roi est furieux contre Alma et le fait jeter dehors. Puis, il envoie ses serviteurs pour le tuer. Alma court se cacher et les serviteurs ne le retrouvent pas du tout. Après 3 jours en prison, Abinadi est de nouveau amené à comparaître devant le roi Noé. Le roi Noé dit à Abinadi de se rétracter de ce qu'il a déclaré contre lui et son peuple. Le roi Noé dit à Abinadi que s'il ne renie pas tout ce qu'il a dit, il sera tué. Abinadi sait qu'il a dit la vérité. Il est prêt à mourir plutôt que de se rétracter de ce que Dieu l'a envoyé dire. Le roi Noé commande à ses prêtres de tuer Abinadi. Ils le ligotent, le fouettent et le font mourir sur un bûcher. Avant de mourir, Abinadi dit au roi Noé qu'il mourra aussi par le feu. Certains néphites s'opposent au roi Noé et essaient de le tuer. L'armée lamanite vient aussi combattre le roi et ses partisans. Le roi et ses partisans s'enfuient devant les lamanites. Mais les lamanites les rattrapent et commencent à les tuer. Le roi dit à ses hommes d'abandonner leur famille et de continuer à fuir. Beaucoup d'hommes ne veulent pas s'enfuir. Ils sont capturés par les lamanites. La plupart des hommes qui se sont enfuis avec le roi Noé ont des remords. Ils veulent retourner pour aider leurs femmes et leurs enfants et le reste de leur peuple. Le roi Noé ne veut pas que les hommes retournent auprès de leur famille. Il leur ordonne de rester avec lui. Les hommes sont en colère contre le roi Noé. Ils le mettent à mort en le brûlant, comme Abinadi l'a prophétisé. Puis, ils retournent auprès de leur famille.
Chapitre 15. Alma instruit et baptise. Alma échappe aux serviteurs du roi Noé et se cache pendant de nombreux jours. Pendant qu'il est caché, il écrit ce que le prophète Abinadi a enseigné. Alma se repent de ses péchés et va en secret trouver les néphites pour leur enseigner le message d'Abinadi. Alma dit aux gens d'avoir foi en Jésus-Christ et de se repentir. Pendant la journée, Alma se cache dans un bosquet d'arbres près d'un étang appelé les eaux de Mormon. Ceux qui croient aux enseignements d'Alma se rendent aux eaux de Mormon et se font baptiser. Alma baptise 204 personnes qui deviennent membres de l'Église du Christ. Alma ordonne des prêtres pour instruire le peuple. Il dit aux prêtres d'enseigner le repentir et la foi en Jésus-Christ. Il dit aussi qu'ils ne doivent pas se disputer mais être unis. L'amour et l'esprit de service règnent parmi le peuple d'Alma. Les membres partagent tous leurs biens et sont reconnaissants d'avoir appris à connaître Jésus-Christ, leur Rédempteur. Les serviteurs du roi Noé ont vu Alma instruire le peuple. Le roi dit qu'Alma est en train de monter les néphites contre lui et il envoie donc une armée pour les tuer. Dieu avertit Alma que l'armée du roi Noé arrive. Le peuple rassemble ses familles, son bétail et ses autres biens et s'enfuit dans le désert. Dieu a fermé le peuple d'Alma afin qu'il puisse échapper à l'armée du roi Noé. L'armée le recherche, mais ne le retrouve jamais. Après avoir marché dans le désert pendant 8 jours, le peuple d'Alma arrive à un beau pays où l'eau est pure. Ils le cultivent et y construisent des bâtiments. Les gens veulent qu'Alma soit leur roi, mais Alma dit que Dieu ne veut pas qu'ils aient un roi. Dieu veut qu'ils soient libres.
Chapitre 16. Le roi Limi et son peuple s'enfuient. Les Lamanites capturent de nombreux Néphites qui ne se sont pas échappés avec le roi Noé. Les Lamanites les prennent et leur donnent des terres, mais les forcent à payer de lourdes taxes. Les Néphites font de Limi leur nouveau roi. Limi est le fils du roi Noé, mais il n'est pas méchant comme son père. C'est un homme bon. Le roi Limi essaie de faire la paix avec les Lamanites, mais il continue de surveiller les Néphites et d'être cruel avec eux. Un jour que le roi Limi voit des étrangers en dehors de la ville, il les fait mettre en prison. Ces étrangers sont des Néphites venus de Zarahemla. Leur dirigeant se nomme Ammon. Le roi Limi est heureux de le voir. Il sait qu'Ammon peut aider son peuple à échapper aux Lamanites. Le roi Limi rassemble ses sujets. Il leur rappelle que c'est à cause de leur méchanceté qu'ils sont tenus prisonniers par les Lamanites. Il dit à son peuple de se repentir, de faire confiance à Dieu et d'obéir aux commandements. Alors Dieu les aidera à s'échapper. Les Néphites apprennent que les Lamanites qui gardent la ville se saoulent souvent la nuit. Cette nuit-là, le roi Limi offre davantage de vin aux gardes. Le roi Limi et son peuple peuvent passer devant les gardes sous et s'échapper. Ammon fait traverser le désert au roi Limi et à son peuple et l'amène à Zarahemla, où ils sont accueillis.
Chapitre 17. Alma et son peuple s'échappent. Un jour que le peuple d'Alma est en train de travailler dans les champs, une armée lamanite franchit la frontière et pénètre dans leur pays. Les Néphites sont effrayés et se précipitent vers la ville pour s'abriter. Alma leur dit de se souvenir de Dieu et qu'il les aiderait. Les Néphites se mettent à prier. Le Seigneur adoucit le cœur des Lamanites et il ne blesse pas les Néphites. Les Lamanites se sont perdus en essayant de trouver le peuple du roi Limi. Les Lamanites promettent à Alma qu'ils ne créeront pas d'ennui à son peuple s'ils veulent leur dire comment retourner à leur pays. Alma leur montre le chemin. Mais les Lamanites ne tiennent pas leurs promesses. Ils encerclent le pays avec des gardes et Alma et son peuple ne sont plus libres. Le roi des Lamanites établit Amulon gouverneur du peuple d'Alma. Amulon était néphite et prêtre du roi Noé. Amulon fait travailler très dur le peuple d'Alma. Il prie pour avoir de l'aide, mais Amulon dit que quiconque sera pris en train de prier sera mis à mort. Le peuple continue de prier dans son cœur. Dieu entend ses prières et rend les gens plus forts de telle sorte que leur travail devient plus facile. Les gens sont joyeux et patients. Dieu est satisfait de la fidélité des gens. Il dit à Alma qu'il les aidera à échapper aux Lamanites. Au cours de la nuit, le peuple rassemble sa nourriture et son bétail. Le lendemain matin, Dieu maintient les Lamanites endormis pendant qu'Alma et son peuple s'enfuient de la ville. 12 jours plus tard, les gens arrivent à Zarahemla, où le roi Mosia et son peuple les accueillent.
Chapitre 18. Alma le jeune se repent. Le roi Mosia fait d'Alma le chef de l'église de Zarahemla. Alma choisit ensuite d'autres hommes pour l'aider à instruire les Néphites. Alma et le roi Mosia sont inquiets parce que des incroyants font souffrir les membres de l'église à cause de leur croyance. Le fils d'Alma s'appelle Alma. Alma le jeune ne croit pas aux enseignements de son père et devient méchant. Alma le jeune et les 4 fils du roi Mosia combattent l'église. Ils persuadent beaucoup de gens de quitter l'église et de devenir méchants. Alma prie pour que son fils apprenne la vérité et se repente. Alma le jeune et les fils du roi Mosia continuent d'essayer de détruire l'église. Un jour, un ange leur apparaît. L'ange parle d'une voix forte qui fait trembler le sol. Les 5 jeunes gens ont tellement peur qu'ils tombent sur le sol. D'abord, ils ne comprennent pas ce que l'ange dit. L'ange est apparu en réponse aux prières des membres de l'Église. L'ange demande à Alma le Jeune pourquoi il lutte contre l'Église. Le sol tremble lorsque l'ange dit à Alma le Jeune d'arrêter d'essayer de détruire l'Église. Alma le Jeune et les fils de Mosia retombent par terre. Ils ont vu un ange et ils savent que c'est la puissance de Dieu qui a fait trembler le sol. Alma le Jeune est tellement étonné qu'il ne peut plus parler. Il devient si faible qu'il ne peut même pas bouger les mains. Les fils de Mosia portent Alma le Jeune à son père et lui disent tout ce qui leur est arrivé. Alma est heureux. Il sait que Dieu a répondu à ses prières. Alma rassemble une multitude de personnes pour qu'elles voient ce que le Seigneur a fait pour son fils et pour les fils de Mosia. Avec les autres dirigeants de l'Église, Alma jeûne et prie et demande à Dieu d'aider Alma le Jeune à recouvrer ses forces. 2 jours et 2 nuits plus tard, Alma le Jeune est capable de parler et de bouger. Il dit aux gens qu'il s'est repenti de ses péchés et que Dieu lui a pardonné. Il enseigne que tout le monde doit être juste pour entrer dans le royaume de Dieu. Il parle aussi de la grande souffrance qu'il a ressentie à cause de ses péchés. Alma le Jeune est heureux parce qu'il s'est repenti et que Dieu lui a pardonné. Il sait que Dieu l'aime. Alma le Jeune et les fils du roi Mosia commencent à enseigner la vérité dans tout le pays en disant à chacun ce qu'ils ont vu et entendu. Ils essaient de réparer le mal qu'ils ont commis. Ils expliquent les Écritures aux gens et les instruisent au sujet de Jésus-Christ. Dieu bénit Alma le Jeune et les fils de Mosia quand ils enseignent l'Évangile. Beaucoup de gens les écoutent et croient.
Chapitre 19. Les fils de Mosia deviennent missionnaires. Mosia a 4 fils, Amon, Aaron, Omner et Imni. Ils étaient avec Alma lorsqu'un ange leur est apparu. Les fils de Mosia se sont repentis de leurs péchés et ont regretté les ennuis qu'ils ont causés. Ils savent que l'Évangile est vrai et ils veulent l'enseigner aux autres. Chacun des fils de Mosia refuse de devenir roi. Ils préfèrent être missionnaires chez les Lamanites et les faire profiter des bénédictions de l'Évangile. Le roi Mosia prie pour savoir s'il doit laisser partir ses fils. Dieu lui dit de les laisser partir et qu'ils seront protégés. De nombreux Lamanites croiront leur message. Les fils de Mosia vont instruire les Lamanites. Ils jeûnent et prient pour être de bons missionnaires.
Chapitre 20. Alma et Néor. Avant la mort du roi Mosia, les Néphites choisissent des juges comme dirigeants. Alma le Jeune devient le premier grand juge. Il est aussi le chef de l'Église. Un homme de haute taille et d'une grande force, Néor commence à enseigner des mensonges. Il dit que tout le monde sera sauvé, qu'il soit bon ou méchant. Beaucoup de gens croient Néor. Néor prêche contre l'Église de Dieu. Mais un homme juste du nom de Gidéon la défend. Néor discute âprement avec Gidéon, mais Gidéon parle avec les paroles de Dieu. Néor se met en colère, tire son épée et tue Gidéon. Néor est emmené devant Alma pour être jugé. Néor se défend avec assurance. Mais Alma dit que Néor est coupable parce qu'il a enseigné au peuple à être méchant et qu'il a tué Gidéon. Alma dit que Néor doit être puni pour avoir tué Gidéon. D'après la loi, Néor doit mourir. Néor est emmené à une colline à proximité et est mis à mort. Avant de mourir, il déclare que tout ce qu'il a dit est faux. Cependant, beaucoup de personnes croient encore aux faux enseignements de Néor. Ces personnes aiment les richesses et ne veulent pas obéir aux commandements de Dieu. Ils se moquent des membres de l'Église et se disputent et se battent avec eux. Les justes continuent à obéir aux commandements de Dieu et ne se plaignent pas, même lorsque les disciples de Néor leur font du tort. Les membres de l'Église partagent tous leurs biens avec les pauvres et ils s'occupent des malades. Ils obéissent aux commandements et Dieu les bénit.
Chapitre 21. Les Amlicites. Amlici est un homme rusé et méchant qui veut être le roi des Néphites. Il a de nombreux partisans. Les Néphites justes ne veulent pas d'Amlici comme roi. Ils savent qu'il veut détruire l'Église de Dieu. Les Néphites forment différents groupes pour décider si Amlici doit devenir roi. La plupart d'entre eux votent contre Amlici et il ne devient pas roi. Amlici et ses disciples deviennent furieux. Ils quittent les Néphites, fondent Amlici leur roi et se donnent le nom d'Amlicite. Amlici leur commande de combattre les Néphites. Les Néphites justes se préparent à se défendre avec des arcs, des flèches, des épées et d'autres armes. Les Amlicites attaquent et les Néphites, qui sont dirigés par Alma et rendus forts par le Seigneur, tuent beaucoup d'entre eux. Le reste des Amlicites s'enfuit en courant. Alma envoie des espions pour observer les Amlicites. Les espions les voient se joindre à une grande armée de Lamanites et attaquer les Néphites habitant près de Zarahemla. Les Néphites prient et Dieu les aide encore. Ils tuent de nombreux soldats de l'armée Lamanite Amlicite. Alma et Amlici se battent à l'épée. Alma prie pour que sa vie soit épargnée et Dieu lui donne la force de tuer Amlici. Les Néphites poursuivent les Lamanites et les Amlicites dans le désert. Beaucoup de ceux qui sont blessés y meurent et se font dévorer par les animaux sauvages. Comme les Lamanites, les Amlicites se font des marques rouges, ce qui accomplit une prophétie. Les Amlicites se sont séparés des bénédictions de l'Évangile.
Chapitre 22. La mission d'Alma à Ammoniha. Alma se soucie de la méchanceté des Néphites et décide donc de passer tout son temps à prêcher l'Évangile. Il choisit Néphiha pour le remplacer comme grand juge. Alma enseigne l'Évangile dans tout le pays. Quand il essaie de prêcher dans Ammoniha, les gens ne veulent pas écouter. Ils le chassent hors de la ville. Alma est triste que les gens d'Ammoniha soient si méchants. Il part pour une autre ville. Un ange apparaît et réconforte Alma. L'ange lui dit de retourner à Ammoniha et de prêcher de nouveau. Alma se presse d'y retourner. Alma a faim. Lorsqu'il entre dans la ville, il demande de la nourriture à un homme. Un ange a dit à cet homme qu'Alma doit venir et qu'Alma est un prophète de Dieu. Cet homme, Amulek, emmène Alma chez lui et lui donne à manger. Alma reste de nombreux jours avec Amulek et sa famille. Il remercie Dieu de la famille d'Amulek et la bénit. Alma parle à Amulek de son appel d'instruire les gens d'Ammoniha. Amulek accompagne Alma pour instruire les gens. Le Saint-Esprit les aide. Alma dit au peuple de se repentir, sinon Dieu les détruira. Il dit que Jésus-Christ va venir et qu'il sauvera ceux qui ont foi en lui et se repentent. Le peuple d'Ammoniha se met en colère. Il essaie de jeter Alma en prison, mais le Seigneur le protège. Amulek commence alors à enseigner. Beaucoup de personnes connaissent Amulek. Il n'est pas un étranger comme Alma. Il leur parle de l'ange qu'il a vu. Amulek dit qu'Alma est un prophète de Dieu et qu'il dit la vérité. Le peuple est surpris d'entendre le témoignage d'Amulek. Certaines personnes deviennent furieuses, surtout un homme méchant du nom de Zeezrom. Elles essaient de prendre Amulek au piège en lui posant des questions, mais il leur dit qu'il est au courant de leur intention. Zeezrom veut détruire tout ce qui est bon. Il veut créer des problèmes, ensuite les gens le paient pour résoudre les problèmes qu'il a créés. Zeezrom n'arrive pas à piéger Amulek. Il lui offre donc de l'argent pour qu'il dise qu'il n'y a pas de Dieu. Amulek sait que Dieu vit et dit que Zeezrom le sait aussi, mais qu'il aime l'argent plus que Dieu. Amulek instruit ensuite Zeezrom à propos de Jésus, de la résurrection et de la vie éternelle. Les gens sont étonnés. Zeezrom commence à trembler de crainte. Zeezrom sait qu'Alma et Amulek ont le pouvoir de Dieu parce qu'ils devinent ses pensées. Zeezrom pose des questions et écoute Alma lui enseigner l'Évangile. Certaines personnes croient Alma et Amulek et commencent à se repentir et à étudier les Écritures. Mais la plupart des gens veulent tuer Alma et Amulek. Ils ligotent les deux hommes et les emmènent devant le grand juge. Zeezrom regrette d'avoir été aussi méchant et d'avoir enseigné des mensonges au peuple. Il supplie les gens de libérer Alma et Amulek. Zeezrom et les autres personnes qui croient aux enseignements d'Alma et d'Amulek sont chassés de la ville. Les méchants leur jettent des pierres. Puis, les méchants rassemblent les femmes et les enfants qui croient et les jettent dans une fournaise avec leurs écritures. Alma et Amulek sont forcés d'être témoins de la mort des femmes et des enfants par le feu. Amulek désire utiliser le pouvoir de Dieu pour les sauver. Mais Alma dit à Amulek qu'il ne doit pas arrêter la tuerie, parce que les personnes qui meurent seront bientôt avec Dieu et que les méchants seront punis. Le grand juge frappe plusieurs fois Alma et Amulek et se moque d'eux, parce qu'ils n'ont pas sauvé les femmes et les enfants de la fournaise. Puis il les jette en prison. D'autres hommes méchants viennent à la prison et infligent beaucoup de mauvais traitements à Alma et à Amulek. Entre autres, ils les privent de nourriture et leur crachent dessus. Le grand juge dit que si Alma et Amulek se servent du pouvoir de Dieu pour se libérer, il croira. Il les frappe de nouveau. Alma et Amulek se dressent. Alma prie et demande à Dieu de les rendre forts grâce à leur foi au Christ. Le pouvoir de Dieu emplit Alma et Amulek et il brise les liens qui les retiennent. Les méchants ont peur et essaient de s'enfuir, mais tombent par terre. Le sol tremble et les murs de la prison s'écroulent sur les méchants. Le Seigneur protège Alma et Amulek et ils ne sont pas blessés. Les gens d'Ammoniha viennent voir ce qui se passe. Quand ils voient Alma et Amulek qui sortent des décombres de la prison, ils ont peur et s'enfuient en courant. Le Seigneur dit à Alma et à Amulek d'aller à Sidon. Ils y trouvent les personnes justes. Zeezrom y est également. Il est très malade. Zeezrom est heureux de voir Alma et Amulek. Il craignait qu'ils aient été tués à cause de ce qu'il a fait. Il leur demande de le guérir. Zeezrom croit en Jésus-Christ et s'est repenti de ses péchés. Lorsque Alma prie pour lui, Zeezrom guérit immédiatement. Zeezrom se fait baptiser et commence à prêcher l'Évangile. Beaucoup d'autres se font également baptiser. Les méchants d'Ammoniha sont tous tués par une armée lamanite, comme Alma l'a prophétisé.
Chapitre 23. Amon est un grand serviteur. Les quatre fils de Mosia quittent Zeraemla pour enseigner l'évangile aux Lamanites.
Chacun va dans une ville différente.
Amon va au pays d'Ismaël.
Lorsqu'il entre dans la ville, les Lamanites le ligotent et l'emmènent à leur roi Lamoni.
Amon dit au roi Lamoni qu'il veut vivre parmi les Lamanites. Lamoni est satisfait et demande à ses hommes d'enlever les liens d'Amon. Amon dit qu'il veut être l'un des serviteurs du roi. Le roi l'envoie garder ses troupeaux. Un jour qu'Amon et d'autres serviteurs emmènent les troupeaux s'abreuver, des brigands lamanites dispersent les animaux et essaient de les voler. Les serviteurs qui sont avec Amon ont peur. Le roi Lamoni a fait tuer d'autres serviteurs qui ont laissé ces voleurs prendre des animaux. Amon sait que c'est pour lui l'occasion d'utiliser le pouvoir de Dieu afin de gagner la confiance des lamanites. Ensuite, ils écouteront son message. Amon dit aux serviteurs que s'ils rassemblent les animaux dispersés, le roi ne les fera pas mourir. Amon et les autres serviteurs retrouvent rapidement les animaux et les ramènent au point d'eau. Les voleurs lamanites reviennent. Amon dit aux autres serviteurs de garder les troupeaux pendant qu'ils se battent avec les voleurs. Les voleurs lamanites n'ont pas peur d'Amon. Ils pensent qu'ils peuvent facilement le tuer. Le pouvoir de Dieu est avec Amon. Ils frappent et tuent quelques voleurs avec des pierres, ce qui met les autres très en colère. Ils essaient de tuer Amon avec leur bâton, mais chaque fois qu'un voleur lève son bâton, Amon lui coupe le bras. Effrayés, les voleurs s'enfuient. Les serviteurs rapportent les bras coupés au roi Lamoni et lui disent ce qu'Amon a fait. Le roi est étonné du grand pouvoir d'Amon. Il veut voir Amon, mais il a peur parce qu'il croit qu'Amon est le grand esprit. Lorsqu'Amon entre pour le voir, le roi Lamoni ne sait pas quoi dire. Il ne parle pas pendant une heure. Le Saint-Esprit aide Amon à deviner les pensées du roi. Amon explique qu'il n'est pas le grand esprit, mais un homme. Le roi propose à Amon tout ce qu'il veut s'il lui dit quel pouvoir il a utilisé pour vaincre les voleurs et pour connaître ses pensées. Amon dit qu'il veut seulement que le roi Lamoni croie ce qu'il va dire. Le roi dit qu'il croira tout ce qu'Amon lui dira. Amon demande au roi s'il croit en Dieu. Le roi dit qu'il croit au grand esprit. Amon dit que le grand esprit, c'est Dieu,
qu'il a créé tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre, et qu'il connaît les pensées des gens.
Amon dit que les hommes ont été créés à l'image de Dieu.
Il dit que Dieu l'a appelé à enseigner l'évangile à l'Ammonie et à son peuple.
À l'aide des Écritures, Amon enseigne la création au roi l'Ammonie et lui parle d'Adam et de Jésus-Christ. Le roi l'Ammonie croit Amon et prie pour avoir le pardon de ses péchés. Puis il tombe par terre et paraît mort.
Les serviteurs portent le roi à sa femme et l'étendent sur un lit. 2 jours plus tard, les serviteurs pensent qu'il est mort et décident de l'enterrer.
La reine ne croit pas que son mari est mort. Comme elle a entendu parler du grand pouvoir d'Amon, elle lui demande d'aider le roi. Amon sait que l'Ammonie est sous le pouvoir de Dieu. Il dit à la reine que l'Ammonie va se réveiller le lendemain. Elle reste toute la nuit au chevet de l'Ammonie.
Le lendemain, le roi l'Ammonie se lève et dit qu'il a vu Jésus-Christ. Le roi et la reine sont remplis du Saint-Esprit. L'Ammonie instruit son peuple au sujet de Dieu et de Jésus-Christ. Ceux qui croient se repentent de leurs péchés et se font baptiser.
Chapitre 24. Amon rencontre le père du roi l'Ammonie. Le roi l'Ammonie veut emmener Amon pour qu'il rencontre son père. Le Seigneur avertit Amon de ne pas y aller, parce que le père de l'Ammonie va essayer de le tuer. Le Seigneur dit à Amon d'aller plutôt dans le pays de Midoni, là où son frère Aaron est en prison. Le roi l'Ammonie va avec Amon. En chemin, il rencontre le père du roi l'Ammonie, qui règne sur tout le pays. Il demande à l'Ammonie où il va avec un éphite menteur. Le roi l'Ammonie parle d'Amon et de son frère, qui est en prison. Furieux, le père de l'Ammonie commande à son fils de tuer Amon et de ne pas aller à Midoni. L'Ammonie refuse de tuer Amon et dit qu'Amon et lui vont libérer Aaron. Encore plus furieux, le père de l'Ammonie tire son épée pour tuer son fils. Amon s'avance pour protéger l'Ammonie. Le père de l'Ammonie essaie alors de tuer Amon qui se défend et blesse ce dernier au bras. Lorsque le père de l'Ammonie voit qu'Amon peut le tuer, il lui offre la moitié de son royaume s'il veut lui épargner la vie. Amon dit qu'il veut la libération d'Aaron et de ses compagnons et que l'Ammonie puisse garder son royaume. Le père de l'Ammonie se rend compte qu'Amon ne voulait pas le blesser. Il est étonné de l'affection qu'Amon porte à son fils. Il invite Amon à lui enseigner l'évangile. Amon et le roi l'Ammonie se rendent à Midoni. L'Ammonie parle au roi du pays et Aaron et ses compagnons sont libérés de prison. Amon est triste de voir combien ils ont été maltraités. Ils ont beaucoup souffert, mais ils ont été patients.
Chapitre 25. Aaron instruit le père du roi l'Ammonie. L'Esprit guide Aaron et ses compagnons vers le pays de Néphi pour instruire le père du roi l'Ammonie, roi de tous les Lamanites. Aaron dit au roi qu'il est le frère d'Amon. Le roi a réfléchi à la bonté d'Amon et à ses paroles. Aaron demande au roi s'il croit en Dieu. Le roi dit qu'il n'est pas sûr, mais déclare qu'il croira si Aaron dit que Dieu existe. Aaron lui assure que Dieu est vivant. Aaron lit les Écritures au roi. Il lui enseigne la création, la chute d'Adam et la mission de Jésus-Christ.
Le roi demande ce qu'il doit faire pour avoir le Saint-Esprit et pour être prêt à vivre avec Dieu. Le roi est disposé à tout faire, même à abandonner son royaume.
Aaron dit au roi qu'il a besoin de se repentir complètement de ses péchés.
Il doit prier et avoir foi en Dieu. Le roi prie pour savoir s'il y a vraiment un Dieu. Il dit qu'il abandonnera tous ses péchés.
Le roi tombe sur le sol et semble mort. Quand la reine le voit, elle pense qu'Aaron et ses compagnons l'ont tué. La reine commande à ses serviteurs de tuer Aaron et ses compagnons, mais les serviteurs ont peur de le faire.
Elle les envoie chercher d'autres personnes qui accepteront de le faire.
Avant qu'une grande foule puisse se rassembler et causer des ennuis, Aaron prend la main du roi et lui dit de se lever. Le roi se lève.
Le roi calme sa femme et ses serviteurs effrayés et leur enseigne alors l'évangile. Ils croient tous en Jésus-Christ.
Chapitre 26. Le peuple d'Amon. Les fils de Mosia enseignent l'évangile aux Lamanites. Des milliers de Lamanites se repentent et se joignent à l'église. Les Lamanites qui se joignent à l'église prennent le nom d'Anti-Néphi-Léi, ou peuple d'Amon. Ils sont bons et travailleurs. Les Lamanites, qui ne se repentent pas, sont furieux contre le peuple d'Ammon et se préparent à le combattre. Les personnes du peuple d'Ammon savent que les méchants Lamanites vont venir les tuer, mais décident de ne pas riposter. Ils se sont repentis de leur meurtre. Ils enterrent profondément leurs armes dans la terre et promettent à Dieu qu'ils ne tueront jamais plus. Lorsque les méchants Lamanites arrivent et commencent à les tuer, ils s'inclinent jusqu'au sol et prient. Voyant que les personnes du peuple d'Ammon ne veulent pas riposter, de nombreux méchants Lamanites s'arrêtent de les tuer. Les Lamanites regrettent d'avoir tué. Ils jettent leurs armes et se joignent au peuple d'Ammon. Ils ne veulent plus se battre. D'autres Lamanites viennent pour tuer le peuple d'Ammon qui ne veut toujours pas riposter. Beaucoup de personnes sont tuées. Ne voulant pas la destruction du peuple qu'il aime, Ammon prie pour obtenir de l'aide. Le Seigneur lui dit d'emmener son peuple et de quitter le pays. Les Néphites de Zarahemla donnent à Ammon et à son peuple le pays de Gershon et les protègent. Ils deviennent des amis.
Chapitre 27. Corihor. Un homme appelé Corihor vient à Zarahemla. Il ne croit pas en Jésus-Christ et prêche que ce que les prophètes ont dit à propos du Sauveur n'est pas vrai. Corihor dit au peuple qu'il est fou de croire que Jésus viendra ici-bas et souffrira pour leurs péchés. Il dit que les gens ne peuvent pas être punis pour leurs péchés parce qu'il n'y a pas de vie après la mort. De nombreuses personnes croient Corihor. Elles deviennent méchantes. Corihor essaye de prêcher au peuple d'Ammon, mais personne ne veut l'écouter. On le lit et on l'emmène devant Ammon qui le chasse de la ville. Corihor va au pays de Gidéon, mais les gens ne veulent pas l'écouter là non plus. Le grand juge l'envoie à Alma. Alma demande à Corihor s'il croit en Dieu. Corihor dit que non. Alma témoigne qu'il y a un Dieu et que le Christ viendra. Corihor veut qu'Alma fasse un miracle pour prouver qu'il y a un Dieu. Corihor dit qu'il croira en Dieu s'il voit un signe du pouvoir de Dieu. Alma dit à Corihor qu'il a déjà vu de nombreux signes du pouvoir de Dieu grâce aux Écritures et aux témoignages de tous les prophètes. Alma dit que la terre, tout ce qui s'y trouve et le mouvement des planètes dans le ciel sont aussi des signes qu'il y a un Dieu. Corihor refuse encore de croire. Alma est triste à cause de la méchanceté de Corihor et il l'avertit que son âme risque d'être détruite. Corihor veut encore un signe pour prouver l'existence de Dieu. Alma dit que le signe de Dieu sera que Corihor ne pourra plus parler. Quand Alma dit cela, Corihor ne peut plus parler. Corihor écrit qu'il sait que le signe vient de Dieu et qu'il a toujours su qu'il y a un Dieu. Il demande à Alma de prier et d'enlever la malédiction. Alma sait que si Corihor peut parler, il dira encore des mensonges au peuple. Alma dit que le Seigneur décidera si Corihor parlera de nouveau. Le Seigneur ne rend pas l'usage de la parole à Corihor. Corihor va de maison en maison pour mendier sa nourriture. Le grand juge envoie une lettre dans tout le pays disant ce qui est arrivé à Corihor. Il dit à ceux qui l'ont cru de se repentir. Les gens se repentent. Corihor va vivre avec les Oramites. Un jour qu'il est en train de mendier, il meurt piétiné.
Chapitre 28. Les Oramites et le Raméumtom. Les Oramites appartenaient jadis à l'Église de Dieu. Mais ils étaient devenus méchants et adoraient des idoles. Les Néphites voulaient empêcher les Oramites de se joindre aux Lamanites. Alors Alma est allée avec d'autres missionnaires prêcher la parole de Dieu aux Oramites. Ces missionnaires sont surpris et choqués de la manière dont les Oramites rendent un culte dans leurs églises, appelées synagogues. Au centre de leur église, les Oramites ont construit une haute plateforme appelée Raméumtom. En haut, il n'y a de place que pour une seule personne. Les Oramites se tiennent là à tour de rôle, tendent les bras vers le ciel et récitent à haute voix la même prière. Dans cette prière, les Oramites disent que Dieu n'a pas de corps et qu'il n'est qu'un esprit. Ils disent aussi qu'il n'y aura pas de Christ. Les Oramites pensent que Dieu les a choisis eux seuls pour être sauvés dans son royaume. Il le remercie d'être son peuple préféré. Après que tous les Oramides ont prié, ils retournent chez eux et ne prient ni ne parlent plus de Dieu de toute la semaine. Les Oramites riches aiment l'or et l'argent, et ils se vantent de leur trésor matériel. Alma est triste de voir combien ils sont méchants. Alma prie pour que lui et ses missionnaires aient de la force, du réconfort et de la réussite dans leur œuvre. Après avoir demandé de l'aide pour amener les Oramites à la vérité, Alma et les autres missionnaires sont emplis du Saint-Esprit. Les missionnaires vont alors chacun de leur côté pour prêcher. Dieu leur accorde de la nourriture et des vêtements en bénédiction et les affermit dans leur œuvre. Les Oramites pauvres n'ont pas le droit d'entrer dans les églises. Ces personnes commencent à écouter les missionnaires. Beaucoup d'entre eux demandent à Alma ce qu'ils doivent faire. Alma leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'être dans une église pour prier ou pour adorer Dieu. Il leur dit d'avoir foi en Dieu. Amulek leur enseigne alors Jésus-Christ et le plan de Dieu pour ses enfants. Les missionnaires partent et les Oramites qui ont cru sont chassés de la ville. Les croyants vont vivre dans le pays de Gershon avec le peuple d'Ammon. Bien que les méchants Oramites menacent le peuple d'Ammon, ce dernier aide les Oramites justes et leur donne de la nourriture, des vêtements et des terres.
Chapitre 29. Alma enseigne la foi et la parole de Dieu. Alma enseigne la foi aux Oramites. Il dit que ceux qui demandent un signe avant de croire n'ont pas la foi. Alma dit que la foi consiste à croire que quelque chose est vrai sans être vraiment là pour l'avoir. Il explique que la foi d'une personne grandit lorsqu'elle veut croire et qu'elle écoute la parole de Dieu. La parole est alors plantée dans le cœur de la personne et elle commence à se développer comme une semence. Lorsqu'une personne apprend davantage à propos de l'Évangile, la semence commence à germer et continue à pousser. La personne sait que la semence est bonne et sa foi se fortifie. Alma dit que de même qu'une bonne semence donne de bons fruits, de même la parole de Dieu apporte des bénédictions à ceux qui ont la foi.
Chapitre 30. Alma donne des conseils à ses fils. Alma était malheureux que les Néphites soient devenus si méchants. Il dit à chacun de ses fils de vivre avec droiture. Alma dit à Élaman, son fils aîné, d'avoir confiance en Dieu. Il lui parle de l'ange que Dieu a envoyé pour dire à Alma d'arrêter de détruire l'église. Pendant 3 jours, Alma a souffert de sa culpabilité. Puis, il s'est rappelé ce que son père enseignait à propos de Jésus. Et il a su que ses péchés pouvaient être pardonnés. Alma a prié pour obtenir le pardon. Et le chagrin a fait place à la joie dans son âme. Il a été pardonné parce qu'il avait foi en Jésus-Christ et qu'il s'est repenti. Depuis, Alma enseigne l'Évangile aux autres pour qu'ils puissent ressentir la même joie que la sienne. Dieu a béni Alma parce qu'il avait confiance en Dieu. Alma donne à Élaman les annales sacrées et lui dit de continuer à écrire l'histoire de leur peuple. Alma lui dit que s'il garde les commandements, Dieu le bénira et l'aidera à protéger les annales. Alma dit aussi à Élaman de prier tous les matins et tous les soirs et de parler avec Dieu de tout ce qu'il fait pour que Dieu puisse l'aider et le guider. Alma est heureux de son fils Chiblon qui a été un courageux missionnaire chez les Oramites. Chiblon est resté fidèle même quand ils lui ont lancé des pierres. Alma rappelle à Chiblon que Jésus-Christ est le seul par qui l'on puisse être sauvé. Alma encourage ensuite son fils à continuer d'enseigner l'Évangile. Corianton, un autre fils d'Alma, n'a pas obéi au commandement. Il n'a pas été un missionnaire fidèle pendant qu'il instruisait les Oramites. À cause des actions de Corianton, les Oramites n'ont pas voulu croire aux enseignements d'Alma. Alma dit à Corianton que les gens ne peuvent pas cacher leurs péchés à Dieu et que Corianton doit se repentir. Alma enseigne à son fils que tout le monde ressuscitera, mais que seuls les justes vivront avec Dieu. Cette vie est le moment pour que les gens se repentent et servent Dieu, dit Alma. Rappelant à Corianton qu'il a été appelé à être missionnaire, Alma lui dit de retourner auprès des Oramites et d'enseigner le repentir aux gens. Alma et ses fils continuent d'enseigner l'Évangile. Ils enseignent par le pouvoir de la prêtrise.
Chapitre 31. Le capitaine Moroni bat Zaraemna. Zaraemna, dirigeant les Lamanites, veut que son peuple continue de haïr les Néphites et d'en faire ses esclaves. Les Néphites veulent garder leur pays et leur famille libres. Ils veulent aussi être libres d'adorer Dieu. Le capitaine Moroni est le dirigeant des armées Néphites. Lorsque les Lamanites viennent combattre, Moroni et ses armées les rencontrent dans le pays de Gershon. Le capitaine Moroni a préparé son armée avec des armes, des boucliers, une armure et des vêtements épais. Les Lamanites ont une armée plus grande, mais ils ont peur lorsqu'ils voient les Néphites en armure. Les Lamanites portent très peu de vêtements. L'armée des Lamanites n'ose pas se battre avec l'armée du capitaine Moroni. Ils s'enfuient dans le désert et décident d'attaquer une autre ville Néphite. Moroni envoie des espions pour observer les Lamanites. Il demande aussi à Alma de prier le Seigneur pour avoir de l'aide. Le Seigneur dit à Alma l'endroit où les Lamanites vont attaquer. Quand Moroni reçoit le message d'Alma, il laisse quelques soldats pour garder Gershon et fait avancer le reste des autres à la rencontre des Lamanites. Les soldats du capitaine Moroni se cachent des deux côtés de la rivière Sidon, dans l'attente de prendre l'armée Lamanite au piège. Une bataille se déclenche et les Lamanites essaient de s'enfuir en traversant la rivière, mais d'autres Néphites les attendent de l'autre côté. Combattant plus fort que jamais, Zerahemnah et son armée tuent de nombreux Néphites. Les Néphites demandent de l'aide au Seigneur. Le Seigneur affermit l'armée Néphite. L'armée encercle les Lamanites et Moroni commande l'arrêt des combats. Moroni dit à Zerahemnah que les Néphites ne veulent pas tuer les Lamanites ni en faire leurs esclaves. Moroni dit que les Lamanites ne peuvent pas détruire la foi des Néphites en Jésus-Christ. Il dit que Dieu continuera à aider les Néphites à combattre tant qu'ils resteront fidèles. Moroni ordonne à Zerahemnah de rendre les armes. Les Lamanites ne seront pas tués s'ils promettent de ne plus jamais reprendre les armes contre les Néphites. Zerahemnah donne ses armes à Moroni, mais ne veut pas promettre de ne plus combattre. Moroni rend leurs armes aux Lamanites de manière à ce qu'ils puissent se défendre. Zerahemnah se rue sur Moroni pour le tuer, mais un soldat Néphite frappe et brise l'épée de Zerahemnah. Puis le soldat coupe le scabe de Zerahemnah, le met à la pointe de son épée et le brandit en l'air. « Les Lamanites tomberont comme le scalp, leur dit-il, s'ils ne rendent pas les armes et ne promettent pas de ne jamais reprendre le combat. » De nombreux Lamanites mettent leurs armes aux pieds de Moroni et promettent de ne plus combattre. On les laisse partir libres. Furieux, Zerahemnah pousse le reste de ses soldats au combat. Les soldats de Moroni en tuent beaucoup. Quand Zerahemnah voit que ses hommes et lui vont être tués, il supplie Moroni de les épargner. Il promet de ne jamais combattre à nouveau les Néphites. Moroni arrête les combats et prend les armes des Lamanites. Quand ils ont promis de ne plus se battre, les Lamanites partent.
Chapitre 32. Le capitaine Moroni et l'étendard de la liberté. Un homme méchant, Amalikia, veut être le roi des Néphites. Beaucoup de Néphites quittent l'église pour le suivre. Si Amalikia devient roi, il essaiera de détruire l'église de Dieu et de priver le peuple de sa liberté. Lorsque le capitaine Moroni, dirigeant des armées Néphites, apprend qu'Amalikia cherche à devenir roi, il se met en colère. Moroni déchire son vêtement pour en faire un étendard. Il écrit dessus un message pour appeler au peuple de défendre sa religion, sa liberté et sa paix. Moroni fixe l'étendard sur une perche et l'appelle l'étendard de la liberté. Puis, revêtu de son armure, il s'agenouille pour prier. Il demande à Dieu de protéger ceux qui croient en Jésus-Christ et prie pour la liberté de son pays, en l'appelant le pays de la liberté. Moroni va parmi le peuple. Brandissant l'étendard de la liberté, il les appelle pour qu'ils viennent et l'aident à protéger leur liberté. Les gens viennent de tout le pays. Ils promettent de suivre les commandements de Dieu et de se battre pour défendre la liberté. Lorsque Amalikia voit le grand nombre de Néphites qui se sont joints à Moroni, il a peur. Ses partisans et lui partent pour se joindre aux Lamanites. Moroni et son armée essaient de leur barrer la route. Mais Amalikia et quelques-uns de ses hommes lui échappent. Moroni dresse un étendard de la liberté sur toutes les tours du pays des Néphites. Les Néphites ont gardé leur liberté et ont à nouveau la paix.
Chapitre 33. Les hommes du roi contre les hommes libres. Des Néphites veulent que Pahoran, le grand juge, change certaines lois. Lorsque Pahoran refuse, ces personnes se mettent en colère et veulent déposer Pahoran de son poste. Ils veulent avoir un roi et non pas des juges. Sous le nom d'homme du roi, ils espèrent que l'un d'eux deviendra roi et aura du pouvoir sur le peuple. Les Néphites, qui veulent garder Pahoran comme grand juge, sont appelés les hommes libres. Ils veulent être libres de vivre et d'adorer selon leur choix. Le peuple vote entre les hommes libres et les hommes du roi. La plupart d'entre eux votent pour les hommes libres. Pendant ce temps, Amalekia rassemble une grande armée de Lamanites pour attaquer les Néphites. Lorsque les hommes du roi entendent que les Lamanites arrivent, ils sont heureux et refusent d'aider à défendre leur pays. Le capitaine Moroni est furieux contre les hommes du roi qui ne veulent pas se battre. Il a fait de gros efforts pour conserver leur liberté aux Néphites. Il demande au gouverneur le pouvoir de forcer les hommes du roi à combattre ou être mis à mort. Lorsque Pahoran, le gouverneur, lui donne ce pouvoir, Moroni conduit son armée contre les hommes du roi. De nombreux hommes du roi sont tués. Certains sont mis en prison. Le reste d'entre eux acceptent d'aider à défendre leur pays contre les Lamanites.
Chapitre 34. Élamon et les 2000 jeunes guerriers. Le peuple d'Ammon a promis à Dieu que jamais ils ne reprendraient les armes. Ils habitent près des Néphites et les Néphites les protègent. Lorsque les ennemis du peuple d'Ammon attaquent les Néphites, le peuple d'Ammon veut rompre sa promesse et aider les Néphites en combattant. Élamon et les autres dirigeants Néphites ne veulent pas que le peuple d'Ammon brise sa promesse à Dieu. Les jeunes fils du peuple d'Ammon n'ont pas fait cette promesse. Ils veulent aider l'armée Néphite à se battre pour la liberté. 2000 de ces jeunes gens choisissent de défendre leur pays. Ils demandent à Élamon d'être leur chef. Ces jeunes gens sont vaillants, braves et forts. Ils sont également honnêtes et dignes de confiance. Et ils gardent les commandements de Dieu. Élamon conduit ses 2000 jeunes guerriers au combat. Il les appelle ses fils et il appelle leur père. Bien que les fils d'Élamon n'aient jamais combattu, ils n'ont pas peur. Leur mère leur a enseigné à avoir foi en Dieu et à savoir qu'il les aidera. Élamon et son armée livrent plusieurs batailles contre les Lamanites. Ces jeunes gens obéissent à tous les ordres d'Élamon. Ils combattent avec bravoure et aident à chasser l'ennemi. Après la bataille, Élamon s'aperçoit que tous ses fils ont été blessés, mais qu'aucun n'a été tué. C'est un miracle. Élamon est très heureux. Il sait que ces jeunes ont été protégés grâce à leur grande foi en Dieu.
Chapitre 35. Le capitaine Moroni et Pahoran. Le capitaine Moroni est heureux d'entendre qu'Élamon et son armée ont repris une grande partie des terres néphites aux Lamanites. Mais Élamon et son armée ont besoin d'aide. Ils n'ont pas assez de soldats pour défendre autant de villes. Le capitaine Moroni écrit une lettre à Pahoran, grand juge et gouverneur. Il lui demande d'envoyer plus de soldats pour aider l'armée d'Élamon. Les Lamanites attaquent une ville néphite qu'Élamon a reprise. Ils tuent de nombreux néphites et chassent les autres de la ville. En colère contre le gouvernement qui n'a pas envoyé de secours, Moroni écrit une autre lettre à Pahoran. Le capitaine Moroni écrit qu'il y a eu beaucoup de tués parce que Pahoran n'a pas envoyé plus de soldats. Si Pahoran n'envoie pas rapidement des hommes et de la nourriture, Moroni fait monter son armée à Zarahemla et prend ce dont elle a besoin. Moroni reçoit vite une lettre de Pahoran. Il est très triste d'apprendre que Moroni et ses armées souffrent. Pahoran dit à Moroni qu'un groupe de méchants néphites, appelés hommes du roi, ne veulent pas qu'il soit grand juge. Ils l'ont chassé, lui et ses partisans, de Zarahemla. Pahoran ajoute qu'il rassemble une armée pour essayer de reprendre Zarahemla. Les hommes du roi ont choisi un roi comme dirigeant et se sont joints aux Lamanites. Pahoran n'est pas fâché de ce que Moroni a écrit. Il veut lui aussi que les Néphites soient libres. Il demande à Moroni d'amener quelques hommes pour l'aider et dit que si Moroni rassemble d'autres hommes en chemin, l'armée formée ainsi pourra reprendre Zarahemla. Le capitaine Moroni est heureux que Pahoran reste loyal à son pays et désire toujours la liberté pour son peuple. Avec quelques-uns de ses hommes, Moroni va à la rencontre de Pahoran. Il porte l'étendard de la liberté et des milliers d'hommes se joignent à eux en chemin. Les deux armées de Moroni et de Pahoran montent à l'assaut de Zarahemla. Elles tuent le roi des méchants Néphites et capturent ses hommes. Moroni envoie ensuite de la nourriture et 12 000 soldats pour aider les armées néphites. Ces armées chassent les Lamanites et la paix règne de nouveau dans le pays.
Chapitre 36. Agot. Environ 55 ans avant la naissance de Jésus-Christ, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants néphites quittent Zarahemla en direction du nord. L'un d'eux, un homme du nom d'Agot, construit un grand bateau et le lance dans la mer occidentale. De nombreux néphites emportent des aliments et des réserves et font voile vers le nord dans son bateau. Agot construit ensuite d'autres navires qui emportent des gens vers une terre au nord. Le premier navire revient et prend d'autres passagers. Un autre navire prend la mer. Aucun des navires ne revient et les néphites n'ont jamais su ce qui était arrivé à leurs occupants.
Chapitre 37. Néphi et Léhi en prison. Néphi et Léhi étaient les fils d'Élaman. Élaman voulait qu'ils soient justes comme Léhi et Néphi qui ont quitté Jérusalem. Élaman a enseigné à ses fils de croire en Jésus-Christ. Ils ont appris que le pardon vient par la foi et le repentir. Néphi et Léhi vont enseigner la parole de Dieu aux Néphites et aux Lamanites. Des milliers de personnes se font baptiser. Lorsque Néphi et Léhi vont au pays de Néphi, une armée lamanite les jette en prison et ne leur donne pas de nourriture pendant de nombreux jours. Les Lamanites vont à la prison pour tuer Néphi et Léhi, mais ne peuvent pas le faire parce que les deux Néphites sont protégés par un cercle de feu qui brûle quiconque essaie de les toucher. Néphi et Léhi ne sont pas brûlés par le feu. Ils disent aux Lamanites que le pouvoir de Dieu les protège. Le sol et les murs de la prison se mettent à trembler. Un nuage sombre enveloppe les gens dans la prison et ils ont peur. On entend une voix venant d'au-dessus des ténèbres. Elle est douce comme un murmure, mais tout le monde l'entend. La voix déclare aux gens de se repentir et d'arrêter d'essayer de tuer Néphi et Léhi. La voix parle trois fois et le sol et les murs de la prison continuent de trembler. Les Lamanites ne peuvent pas s'enfuir parce qu'il fait trop sombre et qu'ils ont trop peur. Un néphite qui a été membre de l'église voit que le visage de Néphi et de Léhi brille dans l'obscurité. Néphi et Léhi regardent vers les cieux et parlent. L'homme dit aux Lamanites de regarder. Il se demande à qui parlent Néphi et Léhi. L'homme, qui s'appelle Aminadab, dit aux Lamanites que Néphi et Léhi parlent aux anges. Les Lamanites demandent à Aminadab comment ils peuvent se débarrasser du nuage sombre. Il leur dit de se repentir et de prier jusqu'à ce qu'ils aient foi en Jésus-Christ. Les Lamanites prient jusqu'à la disparition du nuage sombre. Quand l'obscurité est partie, les gens voient une colonne de feu tout autour d'eux. Le feu ne les brûle pas, ni les murs de la prison. Les Lamanites se sentent très joyeux et l'Esprit de Dieu remplit leur cœur. Une voix leur dit dans un murmure qu'ils seront réconfortés en raison de leur foi en Jésus-Christ. Les Lamanites lèvent les cieux pour voir d'où vient la voix. Ils voient des anges qui descendent du ciel. Environ 300 personnes voient et entendent ce qui arrive dans la prison. Ils vont le dire aux autres. La plupart des Lamanites les croient et rangent leurs armes. Les Lamanites arrêtent de haïr les Néphites et leur rendent les terres qu'ils leur ont prises. Les Lamanites deviennent plus justes que les Néphites. Beaucoup de Lamanites vont avec Néphi et Léhi et instruisent les Lamanites et les Néphites.
Chapitre 38. Le meurtre du grand juge. Des hommes méchants deviennent juges sur les Néphites. Ils punissent les justes, mais pas les méchants. Néphi est triste de voir tant de méchanceté dans le peuple. Un jour, il est en train de prier sur une tour dans son jardin, en bordure d'une route qui conduit à la place du marché de Zarahemla. Les passants entendent Néphi prier. Un grand groupe s'assemble en se demandant pourquoi Néphi est si triste. Lorsque Néphi voit les gens, il leur dit qu'il est triste à cause de leur méchanceté. Il leur dit de se repentir. Il les avertit en disant que s'ils ne se repentent pas, leurs ennemis prendront leur maison et leur ville, et que le Seigneur ne les aidera pas à combattre leurs ennemis. Néphi dit que les Néphites sont plus méchants que les Lamanites, parce que les commandements ont été enseignés aux Néphites, mais qu'ils n'y obéissent pas. Il dit que si les Néphites ne se repentent pas, ils seront détruits. Certains des juges méchants sont présents. Ils veulent que les gens punissent Néphi de parler contre eux et leurs lois. Certains sont d'accord avec les juges méchants. D'autres croient Néphi. Ils savent qu'il est prophète et qu'il dit la vérité. Néphi dit aux gens qu'ils se sont rebellés contre Dieu et qu'ils seront bientôt punis s'ils ne se repentent pas. Néphi dit aux gens d'aller trouver le grand juge. Il sera étendu dans son sang, assassiné par un frère qui veut son poste. 5 hommes de la foule se précipitent pour voir le grand juge. Ils ne croient pas que Néphi est prophète de Dieu. Lorsqu'ils voient ces Horam, le grand juge, étendu dans son sang, ils tombent de peur sur le sol. Ils savent maintenant que Néphi est un prophète. Les serviteurs de ces Horam avaient déjà trouvé le grand juge et avaient couru le dire au peuple. À leur retour, ils trouvent les 5 hommes étendus. Les gens pensent que les 5 hommes ont assassiné ces Horam. Ils jettent les 5 hommes en prison et annoncent dans toute la ville que le grand juge a été tué et que les meurtriers sont en prison. Le lendemain, les gens vont là où le grand juge doit être enterré. Les juges qui étaient au jardin de Néphi demandent où sont les 5 hommes. Les juges demandent à voir les présumés meurtriers. Les présumés meurtriers sont les 5 hommes qui se sont précipités du jardin de Néphi chez le grand juge. Les 5 hommes disent qu'ils ont trouvé le grand juge étendu dans son sang, comme Néphi l'avait dit. Les juges accusent alors Néphi d'avoir envoyé quelqu'un pour assassiner ces Horam. Sachant que Néphi est prophète, les 5 hommes se disputent avec les juges, mais ils ne veulent pas écouter. Ils font lier Néphi. Les juges offrent à Néphi de l'argent et la vie sauve s'il accepte de dire qu'il a manigancé de tuer le grand juge. Néphi dit aux juges de se repentir de leur méchanceté. Puis, il leur dit d'aller voir Séantoum, le frère de ces Horam. Néphi leur dit de demander à Séantoum si Néphi et lui ont comploté de tuer ces Horam. Néphi dit que Séantoum dira non. Les juges doivent alors demander à Séantoum s'il a tué son frère. Séantoum redira non. Mais les juges trouveront du sang sur son vêtement. Néphi dit alors que Séantoum tremblera et deviendra pâle et finira par confesser qu'il a tué son frère. Les juges vont chez Séantoum et tout se passe comme Néphi l'a dit. Néphi et les 5 hommes sont libérés. Lorsque le peuple quitte Néphi, certains disent qu'il est prophète, d'autres qu'il est un dieu. Néphi rentre chez lui, encore attristé par leur méchanceté.
Chapitre 39. Néphi reçoit un grand pouvoir. Néphi rentre chez lui en pensant à ce que le Seigneur lui a montré et à la méchanceté des Néphites. Il est triste de leur méchanceté. Le Seigneur parle à Néphi et le loue d'avoir été obéissant et d'avoir travaillé si dur pour enseigner l'Évangile. Néphi reçoit le pouvoir de tout faire. Le Seigneur sait qu'il utilisera ce pouvoir avec justice. Le Seigneur dit à Néphi d'avertir les Néphites que s'ils ne se repentent pas, ils seront détruits. Néphi va immédiatement avertir le peuple. Les Néphites ne croient pas Néphi. Ils essaient de le jeter en prison, mais le pouvoir de Dieu le protège. Néphi déclare la parole de Dieu à tous les Néphites. Mais les gens deviennent encore plus méchants et commencent à se battre entre eux. Néphi prie pour qu'il y ait une famine, en espérant que le manque de nourriture rendra les Néphites plus humbles et les aidera à se repentir. La famine vient. Il ne pleut pas, de sorte que le sol se dessèche et que les cultures ne poussent pas. Les gens arrêtent de se battre. Les Néphites ont faim et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui survivent commencent à se rappeler le Seigneur et ce que Néphi leur a dit. Les gens se repentent de leurs péchés et supplient ensuite leur juge de demander à Néphi de mettre fin à la famine. Les juges vont voir Néphi. Lorsque Néphi voit que le peuple est devenu humble et s'est repenti, il demande au Seigneur d'interrompre la famine. Le Seigneur répond aux prières de Néphi et il se met à pleuvoir. Bientôt les semences se remettent à pousser. Le peuple rend gloire à Dieu et sait que Néphi est un grand prophète. La plupart des Néphites deviennent membres de l'Église. Ils deviennent riches et leur ville se développe. La paix règne dans le pays. Puis certains Néphites qui s'étaient joints auparavant aux Lamanites attaquent les Néphites. Les Néphites essaient de vaincre leurs ennemis qui sont devenus voleurs de Gadianton, mais n'y parviennent pas parce qu'ils sont eux aussi redevenus méchants. Lorsque les Néphites sont justes, le Seigneur les bénit. Lorsqu'ils sont orgueilleux et oublient le Seigneur, il leur donne des problèmes pour les aider à se souvenir de lui.
Chapitre 40. Samuel le Lamanite parle de Jésus-Christ. Les Lamanites obéissent au commandement de Dieu et deviennent plus justes que les Néphites. Samuel, un prophète lamanite, va à Zarahemla pour prêcher aux méchants Néphites. Il leur dit de se repentir. Les Néphites expulsent Samuel de la ville et il commence à retourner dans son pays. Mais le Seigneur dit à Samuel de retourner à Zarahemla et de dire aux gens ce que le Seigneur mettra dans son cœur. Les Néphites ne veulent pas laisser Samuel entrer dans la ville. Ils grimpent donc sur la muraille et prêchent de cet endroit. Ils prophétisent que les Néphites seront détruits dans 400 ans, à moins que le peuple se repente et ait foi en Jésus-Christ. Samuel dit aux Néphites que Jésus-Christ naîtra dans 5 ans et qu'il sauvera tous ceux qui croient en lui. Samuel leur parle des signes de la naissance de Jésus. Une nouvelle étoile doit apparaître et il ne fera pas noir la nuit avant la naissance de Jésus. Samuel leur annonce alors les signes de la mort de Jésus. Il y aura 3 jours de ténèbres totales. Le soleil, la lune et les étoiles ne brilleront pas. Il y aura aussi du tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. Des montagnes s'écrouleront et de nombreuses villes seront détruites. Certains Néphites croient Samuel et se repentent de leurs péchés. Ils vont à la recherche de Néphi, un Néphite juste qui peut les baptiser. Le reste des Néphites ne croient pas Samuel. Ils lui jettent des pierres et lui lancent des flèches. Mais le Seigneur le protège et aucune pierre ni aucune flèche ne le touche. Lorsque les gens voient qu'ils ne peuvent le toucher, beaucoup d'entre eux croient en lui et vont trouver Néphi pour se faire baptiser. Néphi enseigne également à propos de Jésus. Il veut qu'ils croient en Jésus, se repentent et soient baptisés. Cependant, la plupart des Néphites ne croient pas Samuel. Ils essaient de le capturer. Samuel saute de la muraille et court vers son pays. Samuel commence à instruire les Lamanites. On n'entend plus parler de lui chez les Néphites.
Chapitre 41. Les signes de la naissance du Christ. Néphi, fils de Élaman, donne les annales sacrées et les écritures à son fils aîné, Néphi. Les Néphites voient les grands signes et les miracles que les prophètes ont prédits pour avant la naissance de Jésus-Christ. Mais certains Néphites disent que le temps de la naissance de Jésus est déjà passé. Ils se moquent de ceux qui croient encore les prophéties de Samuel le Lamanite. Ceux qui croient en Jésus-Christ et aux prophètes sont tristes à la pensée que quelque chose peut empêcher l'accomplissement des prophéties. Les gens attendent fidèlement une nuit sans obscurité qui sera le signe de la naissance de Jésus-Christ. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ choisissent un jour pour tuer les croyants si le signe ne se produit pas. Néphi est triste à cause de la méchanceté de ceux qui ne croient pas au Sauveur. Néphi prie toute la journée pour les gens qui vont être tués. Le Seigneur réconforte Néphi et lui dit qu'il n'y aura pas d'obscurité cette nuit. Jésus naîtra le lendemain à Bethléem. Le soir, le soleil descend, mais il ne fait pas sombre. Le signe de la naissance de Jésus-Christ est donné. Les gens sont étonnés. Ceux qui ont prévu de tuer les croyants tombent par terre et paraissent morts. Ils ont peur parce qu'ils ont été méchants. Ils savent maintenant que le Sauveur naîtra et que les prophètes avaient raison. Il fait clair pendant toute la nuit. Le lendemain, au lever du soleil, les gens savent que Jésus-Christ naîtra ce jour-là. Les prophéties se sont accomplies. Une nouvelle étoile apparaît dans le ciel, comme les prophètes l'ont prédit. Satan essaie encore de pousser les gens à ne pas croire aux signes qu'ils ont vus, mais la plupart d'entre eux croient. Néphi et d'autres dirigeants de l'Église baptisent tous ceux qui croient et qui se repentent. De joyeuses nouvelles circulent dans le pays parce que les paroles des prophètes se sont accomplies. Jésus-Christ est né.
Chapitre 42. Les signes de la crucifixion du Christ. 33 ans ont passé depuis que le peuple a vu les signes de la naissance du Christ. Il attend maintenant de voir les signes de sa mort. 3 jours de ténèbres. Certains ne croient pas que le signe viendra. Ils en débattent avec ceux qui croient. Un jour survient une effroyable tempête. Il fait un vent terrible. Il y a des éclairs et le tonnerre secoue toute la terre. La ville de Zarahemla prend feu. La ville de Moronie est engloutie dans la mer. La ville de Moronia est ensevelie. un tremblement de terre secoue toute la terre. Des grandes voies de communication sont rompues. Des bâtiments s'écroulent. Beaucoup de villes sont détruites et des gens tués. La tempête et le tremblement de terre durent environ 3 heures. Lorsque la tempête et le tremblement de terre s'arrêtent, des ténèbres épaisses couvrent le sol. Il n'y a aucune lumière nulle part. Le peuple peut même ressentir les ténèbres. Les ténèbres durent 3 jours. Les bougies ne brûlent pas et les gens ne peuvent pas voir le soleil, la lune ou les étoiles. Le peuple pleure à cause des ténèbres, de la destruction et de la mort. Il regrette de ne pas s'être repenti de ses péchés. Alors, le peuple entend la voix de Jésus-Christ. Jésus leur parle de la terrible destruction dans le pays. Il dit que les plus méchants ont été tués. Il dit que ceux qui n'ont pas été tués doivent se repentir. S'ils le font et viennent à lui, il les bénira. Les gens sont si étonnés après avoir entendu la voix qu'ils s'arrêtent de pleurer. Tout est silencieux pendant de nombreuses heures. Alors Jésus parle de nouveau, en disant qu'il a souvent essayé d'aider les gens. S'ils veulent se repentir maintenant, ils peuvent encore revenir à lui. Après 3 jours, les ténèbres se dispersent. Le peuple se réjouit et remercie le Seigneur avec joie.
Chapitre 43. Jésus-Christ apparaît aux Néphites. De nombreux Néphites se rassemblent au temple d'abondance. Ils sont étonnés des grands changements dans le pays. Les gens parlent de Jésus-Christ et du signe de sa mort. Pendant qu'ils parlent, ils entendent une voix faible qui vient du ciel. Cela fait que leur cœur brûle. D'abord, ils ne comprennent pas la voix, mais quand elle parle pour la 3e fois, ils la comprennent. C'est la voix de notre Père Céleste. Il présente Jésus-Christ et dit au peuple de l'écouter. Jésus-Christ descend des cieux et se tient parmi eux. Ils ont peur de lui parler parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent que Jésus est un ange. Il leur dit qu'il est Jésus-Christ, celui dont les prophètes ont dit qu'il viendrait. Jésus dit aux gens de venir et de toucher les marques dans son côté, dans ses mains et dans ses pieds, à l'endroit où se trouvaient les clous qui le tenaient à la croix. Jésus veut que les gens sachent qu'il est leur Dieu et qu'il est mort pour leurs péchés. L'une après l'autre, les personnes touchent les marques dans le côté, les mains et les pieds de Jésus. Elles savent qu'il est le Sauveur. Puis le peuple loue Jésus, tombe à ses pieds et l'adore. Jésus demande à Léphi et à 11 autres hommes de venir. Il leur donne le pouvoir de la prêtrise et leur apprend comment baptiser. Il dit aux Néphites de croire en lui, de se repentir et de garder les commandements. S'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas entrer dans son royaume. Il apprend aux Néphites à prier notre Père Céleste. Il leur enseigne aussi le jeûne et dit qu'ils seront pardonnés s'ils pardonnent aux autres. Après leur avoir enseigné beaucoup de choses, Jésus dit aux gens de rentrer chez eux, de réfléchir et de prier à propos de ce qu'il a dit. Les Néphites commencent à pleurer. Ils ne veulent pas encore que Jésus parte. Jésus aime les Néphites. Il leur dit de lui amener les malades et les blessés pour qu'ils puissent les guérir. Jésus guérit ces personnes. Tout le monde s'incline et l'adore.
Chapitre 44. Jésus-Christ bénit les enfants. Jésus-Christ dit aux Néphites de lui amener leurs petits-enfants. Les enfants s'assoient par terre, près de Jésus. Le Sauveur dit aux gens de s'agenouiller. Puis il s'agenouille et prie notre Père Céleste. La prière du Sauveur est si merveilleuse qu'elle ne peut pas être écrite. Elle remplit de joie les Néphites. Après sa prière, Jésus dit que les Néphites seront bénis grâce à leur foi. Il ressent tant d'amour et de bonheur qu'il pleure. Puis il prend les enfants et les bénit un par un. Il prie notre Père Céleste pour eux et pleure de nouveau. Jésus dit aux Néphites de regarder leurs enfants. Lorsque les gens regardent, des anges descendent du ciel et entourent les enfants. Les enfants et les anges sont environnés de feu.
Chapitre 45. Jésus-Christ enseigne la Sainte Cène et la prière. Jésus-Christ envoie ses disciples chercher du pain et du vin. Il dit aux Néphites de s'asseoir par terre. Quand les disciples sont de retour, le Sauveur rompt le pain en morceaux et le bénit. Il en donne à ses disciples et leur demande d'en donner au peuple.
Jésus dit que les gens qui prennent la Sainte Seine promettent de se souvenir toujours de lui et de son sacrifice. Ils reçoivent ensuite son esprit. Jésus-Christ bénit le vin et en donne à ses disciples. Les disciples donnent du vin au peuple. Jésus dit que ceux qui prennent la Sainte Seine promettent de garder ses commandements. Jésus répète à ses disciples que tous ceux qui prennent la Sainte Seine et qui se souviennent toujours de lui auront son esprit. Il dit à ses disciples qu'ils seront bénis s'ils gardent ses commandements. Il leur dit de prier toujours et de prier comme ils l'ont vu faire. Le Sauveur dit à tous les néphites de prier notre Père Céleste en son nom. Il leur commande aussi de prier avec leur famille. Il dit que les gens doivent se réunir souvent. Ils doivent accueillir les autres à leur réunion, prier pour eux et être de bons exemples pour eux. Le Sauveur donne à ses disciples le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Ensuite, un nuage recouvre le peuple de sorte que seuls les disciples voient Jésus-Christ monter aux cieux.
Chapitre 46. Jésus-Christ instruit les néphites et prie avec eux. Les néphites qui ont vu Jésus-Christ disent à leurs amis qu'il reviendra le lendemain. Beaucoup de personnes font de gros efforts pour être là où sera Jésus. Le lendemain matin, Néphi et les autres disciples instruisent le groupe qui s'est réuni. Les disciples prient ensuite pour recevoir le Saint-Esprit. Néphi va dans l'eau et est baptisé. Puis il baptise les autres disciples. Après leur baptême, les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Ils paraissent entourés de feu et des anges descendent des cieux et les instruisent. Pendant que les anges sont avec les disciples, Jésus vient et reste parmi eux. Le Christ dit à tous les néphites de s'agenouiller par terre. Il dit à ses disciples de prier. Pendant qu'il prie, Jésus s'éloigne un peu des gens, s'agenouille et prie notre Père Céleste. Jésus remercie notre Père Céleste d'avoir donné le Saint-Esprit à ses disciples. Il demande ensuite que le Saint-Esprit soit donné à quiconque croit les paroles des disciples. Jésus bénit ses disciples pendant qu'il prie. Il leur sourit, puis ils deviennent aussi blancs que son visage et ses vêtements. Jésus prie de nouveau pour ses disciples. Il est content de leur grande foi. Le Christ dit aux gens d'arrêter de prier, mais de continuer à prier dans leur cœur. Puis il leur donne la Sainte Seine. Personne n'a apporté de pain ni de vin, mais le Sauveur les fournit miraculeusement. Jésus-Christ dit aux néphites que son évangile sera rapporté sur la terre dans les derniers jours. Il leur dit d'étudier les Écritures et il demande à Néphi d'inscrire dans les annales que le reste des prophéties de Samuel le Lamanite a été accompli. Alors Jésus instruit les gens à partir des Écritures. Il leur dit de s'enseigner ce qu'il leur a enseigné. Jésus retourne au ciel et ses disciples instruisent les gens. Ceux qui croient se font baptiser et reçoivent le Saint-Esprit. Les néphites commencent à obéir à tous les commandements.
Chapitre 47. Jésus-Christ bénit ses disciples. Un jour que les disciples sont ensemble pour jeûner et prier, Jésus-Christ vient les voir. Les disciples lui demandent comment ils doivent appeler l'Église. Jésus dit qu'ils doivent lui donner son nom parce que c'est son Église. Jésus explique à ses disciples que notre Père Céleste l'a envoyé ici-bas pour donner sa vie pour tout le monde. Il dit que tous ceux qui se repentent, se font baptiser en son nom et obéissent à ses commandements seront tenus pour innocents devant notre Père Céleste. Le Sauveur dit à ses disciples de faire ce qu'ils l'ont vu faire. Il leur a donné l'exemple. Il leur dit également d'écrire ce qu'ils ont vu et entendu afin que d'autres le sachent. Jésus demande à ses disciples ce qu'ils aimeraient recevoir de lui. 9 d'entre eux veulent être avec lui après leur vie terrestre. Jésus promet que lorsqu'ils auront 72 ans, ils iront au ciel pour être avec lui. Les 3 autres disciples n'osent pas demander ce qu'ils veulent, mais Jésus le sait. Ils veulent rester ici-bas et enseigner l'Évangile jusqu'au retour de Jésus. Le Sauveur leur promet qu'ils ne connaîtront ni la douleur ni le chagrin et qu'ils ne mourront pas. Ils prêcheront l'Évangile aux gens jusqu'à son retour. Jésus touche chaque disciple sauf les 3 qui veulent rester sur la terre. Puis il part. Les 3 disciples sont enlevés au ciel, où ils voient et entendent beaucoup de choses merveilleuses. Ils sont mieux capables de comprendre les choses de Dieu.
Leur corps est changé pour qu'ils ne meurent pas. Les trois disciples reviennent sur terre et commencent à prêcher et à baptiser. Les néphites méchants jettent les trois disciples en prison et dans des puits profonds. Mais le pouvoir de Dieu les aide à s'échapper. Quand ils sont précipités dans des fournaises et dans l'antre d'animaux sauvages, ils sont également protégés par le pouvoir de Dieu. Les trois disciples continuent à prêcher l'évangile de Jésus-Christ aux néphites. Ils sont encore en train de prêcher son évangile.
Chapitre 48. La paix en Amérique. Après que Jésus est retourné au ciel, ses disciples établissent son église dans le pays tout entier. Ceux qui se repentent de leurs péchés sont baptisés et reçoivent le Saint-Esprit. Bientôt, tous les néphites et les lamanites sont convertis. Ils ne se disputent pas et tous sont honnêtes. Il n'y a ni pauvres ni riches. Les gens partagent tout et ils ont tous ce dont ils ont besoin. Les disciples accomplissent de nombreux miracles au nom de Jésus-Christ. Ils guérissent les malades et ressuscitent les morts. Les gens construisent de nouvelles villes, là où d'autres ont été détruites. Ils obéissent aux commandements de Dieu. Ils jeûnent, prient et se réunissent souvent pour entendre la parole de Dieu. Les gens sont heureux. Il n'y a ni voleurs, ni menteurs et ni meurtriers. Les gens ne sont plus divisés en néphites et en lamanites, mais ils sont un en tant qu'enfants du Christ. Le Seigneur bénit le peuple dans toutes ses actions. Il vit en paix pendant 200 ans. Les gens deviennent très riches.
Chapitre 49. Mormon et ses enseignements. De nombreuses années après la visite de Jésus-Christ aux néphites, un petit groupe quitte l'Église et s'appelle les Lamanites. Par la suite, presque tous les gens deviennent méchants, néphites comme Lamanites. Un homme juste, un marron, détient les annales sacrées. Le Saint-Esprit lui dit de les cacher pour les protéger. Amaron dit à Mormon, un garçon de 10 ans, où sont cachées les annales. Amaron sait qu'il peut faire confiance à Mormon. À l'âge de 24 ans, Mormon doit obtenir les plaques de Néphi et y écrire à propos de son peuple. Lorsque Mormon a 11 ans, une guerre éclate entre les Néphites et les Lamanites. Les Néphites la gagnent et la paix revient. Mais les Néphites sont si méchants que le Seigneur reprend les trois disciples, ce qui met fin aux miracles et aux guérisons. Le Saint-Esprit ne guide plus le peuple. Lorsque Mormon atteint l'âge de 15 ans, Jésus-Christ lui rend visite. Mormon apprend davantage au sujet du Sauveur et de sa bonté. Mormon veut prêcher aux gens, mais Jésus lui dit de ne pas le faire parce que les gens sont trop méchants. Leur cœur est opposé à Dieu. Peu après, une autre guerre éclate. Mormon est grand et fort et les Néphites le choisissent pour diriger leur armée. Les Néphites combattent les Lamanites pendant de nombreuses années. Mormon essaie d'encourager les gens à combattre pour leur famille et leur foyer. Mais les Néphites sont devenus si méchants que le Seigneur ne veut pas les aider. Mormon dit aux Néphites qu'ils seront épargnés seulement s'ils se repentent et sont baptisés. Mais les gens refusent. Ils se vantent de leur force en disant qu'ils tueront tous les Lamanites. En raison de la méchanceté des Néphites, Mormon refuse de continuer à les diriger. Les Lamanites commencent à vaincre les Néphites à chaque combat. Mormon décide de reprendre la direction des armées Néphites. Il sait que les méchants Néphites ne gagneront pas la guerre. Ils ne se repentent pas et ne prient pas pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. Mormon prend toutes les annales de la colline où Amoron les a cachées et écrit au peuple qui les lira un jour. Il veut que tout le monde, y compris les Juifs, connaissent Jésus-Christ, se repentent et soient baptisés, vivent l'Évangile et soient bénis. L'Esprit inspire Mormon à mettre les petites plaques de Néphi qui contiennent les prophéties de la venue du Christ avec les plaques de Mormon. Mormon dirige les Néphites vers le pays de Cumorah, où il se prépare pour combattre à nouveau les Lamanites. Mormon devient vieux. Il sait que ce sera la dernière bataille. Il ne veut pas que les Lamanites trouvent les annales sacrées et les détruisent. Il donne donc les plaques de Mormon à son fils Moroni et cache le reste des plaques dans la colline Cumorah. Les Lamanites attaquent et tuent tous les Néphites sauf 24 d'entre eux. Mormon est blessé. Mormon est triste que tant de Néphites soient morts. Il sait qu'ils sont morts parce qu'ils ont rejeté Jésus. Mormon a essayé d'enseigner la vérité aux Néphites. Il leur a dit comme il est important d'avoir la foi en Jésus-Christ. Il a essayé de leur apprendre à avoir de l'espoir grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et d'avoir de la charité, qui est l'amour pur du Christ. Et Mormon écrit des lettres à son fils Moroni, qui a aussi enseigné l'évangile aux Néphites. Mormon écrit au sujet de la méchanceté terrible des Néphites. Il dit à Moroni de rester fidèle en Jésus-Christ. Les Lamanites tuent Mormon et tous les Néphites, sauf Moroni, qui finit d'écrire les annales.
Chapitre 50. Les Jarédites quittent Babel. Jared et son frère sont des hommes justes qui habitent une ville appelée Babel. Ils vivent des centaines d'années avant les Néphites. La plupart des habitants de Babel sont méchants. Ils construisent une tour pour essayer d'atteindre les cieux. Le Seigneur se fâche et change leur langue. Jared demande à son frère de prier et de demander au Seigneur de ne pas changer la langue de leur famille et de leurs amis. Le frère de Jared prie et le Seigneur répond à sa prière. Jared, son frère, leur famille et leurs amis peuvent encore se comprendre. Le Seigneur dit au frère de Jared de rassembler sa famille et ses amis et de quitter le pays. Ils emportent leurs animaux et toutes sortes de semences avec eux. Le Seigneur dit qu'il dirigera les Jarédites vers une terre promise. Les Jarédites attrapent des oiseaux et des poissons pour les emporter avec eux. Ils prennent des essaims d'abeilles. Les Jarédites se déplacent dans le désert. Le Seigneur leur parle à partir d'une nuée et leur dit quel chemin prendre. Le Seigneur dit au peuple qui habite en terre promise qu'il doit servir Dieu ou qu'il sera détruit. Lorsque les Jarédites atteignent le rivage, ils dressent leur tente. Ils restent près de la mer pendant 4 ans.
Chapitre 51. Le voyage des Jarédites jusqu'à la terre promise. Pendant que les Jarédites campent près de la mer, le frère de Jared oublie de prier. Le Seigneur vient dans une nuée pour lui dire de se repentir. Le frère de Jared se repent et prie. Le Seigneur pardonne au frère de Jared, mais dit qu'il ne doit plus pécher. Le Seigneur dit au frère de Jared de construire des vaisseaux pour emmener son peuple en terre promise. Le Seigneur dit au frère de Jared comment construire les vaisseaux. Les vaisseaux sont rendus étanches afin que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Le frère de Jared se demande comment les gens auront de l'air à respirer dans les vaisseaux. Il demande au Seigneur ce qu'il doit faire. Le Seigneur lui dit de faire un trou en haut et au fond de chaque vaisseau. Le trou peut être ouvert pour laisser entrer l'air et fermé pour que l'eau n'entre pas. Le frère de Jared dit au Seigneur qu'il n'y a pas de lumière dans les vaisseaux. Le Seigneur lui demande d'imaginer un moyen d'avoir de la lumière dans les vaisseaux. La lumière des vaisseaux ne peut pas provenir d'un feu ni de fenêtres parce qu'elle casserait. Le frère de Jared va sur une montagne et taille 16 petites pierres à partir d'un rocher. Les pierres ressemblent à du verre translucide. Il taille 2 pierres pour chacun des 8 vaisseaux. Le frère de Jared transporte les pierres jusqu'au sommet de la montagne. Là, il prie le Seigneur. Le frère de Jared demande au Seigneur de toucher les pierres afin qu'elles donnent de la lumière dans les vaisseaux. Le Seigneur touche chacune des pierres de son doigt. Grâce à sa grande foi, le frère de Jared voit le doigt du Seigneur. Il ressemble à un doigt humain. Le Seigneur se montre ensuite au frère de Jared. Jésus dit que les personnes qui croient en lui auront la vie éternelle. Jésus enseigne et montre de nombreuses choses au frère de Jared. Jésus lui dit d'inscrire ce qu'il a vu et entendu. Le frère de Jared porte les pierres en bas de la montagne. Il met une pierre à chaque extrémité de chaque vaisseau. Elle donne de la lumière dans les vaisseaux. Les Jarédites montent à bord des vaisseaux avec leur bétail et leur nourriture. Le Seigneur fait souffler un vent fort en direction de la terre promise. Le Seigneur les protège lorsque la mer est agitée. Ils remercient le Seigneur et lui chantent des louanges. 344 jours plus tard, les vaisseaux atteignent le rivage de la terre promise. Lorsque les Jarédites sortent des vaisseaux, ils s'agenouillent et pleurent de joie. Les Jarédites construisent des maisons et font des cultures en terre promise. Ils apprennent à leurs enfants à écouter le Seigneur et à obéir à sa parole.
Chapitre 52. La destruction des Jarédites. Les Jarédites deviennent riches et plus nombreux. Ils choisissent un roi pour les gouverner. De nombreuses années passent et les Jarédites deviennent méchants. Le Seigneur envoie des prophètes pour leur dire de se repentir, ou sinon, ils seront détruits. Les gens n'écoutent pas les prophètes. Ils essaient de les tuer. Il y a des guerres et des famines dans le pays. De nombreux Jarédites meurent. Le Seigneur envoie un autre prophète nommé Éther. Il prêche du matin au soir en disant aux Jarédites de croire en Dieu et de se repentir. Éther dit aux Jarédites que s'ils croient en Dieu, ils vivront un jour avec notre Père Céleste dans un monde meilleur. Éther dit de nombreuses choses importantes aux Jarédites, mais ils ne le croient pas. Ils le forcent à quitter la ville. Éther se cache le jour dans la cavité d'un rocher pour ne pas être tué. La nuit, il va voir ce qui arrive aux Jarédites. Il finit d'écrire l'histoire des Jarédites pendant qu'il est caché. Le Seigneur envoie Éther à Coriantum, qui est un méchant roi Jarédite. Éther lui dit de se repentir, sinon il vivra pour voir tout son peuple tué. Coriantum et son peuple ne se repentent pas. Il essaie de faire tuer Éther, mais Éther s'enfuit et se cache dans la cavité. Le peuple est si méchant que le Seigneur maudit le pays. Ils ne peuvent pas poser leurs outils ou leurs épées parce que le lendemain, les objets ont disparu. Tous les Jarédites, y compris les femmes et les enfants, prennent part au combat. Coriantum conduit une armée et un homme du nom de Chiz conduit l'autre. Coriantum et Chiz sont tous les deux des hommes méchants. Le Saint-Esprit a quitté les Jarédites à cause de leur méchanceté. Satan a plein pouvoir sur eux. Les Jarédites combattent jusqu'à ce que Coriantum et Chiz soient les seuls survivants. Lorsque Chiz s'évanouit d'avoir perdu tant de sang, Coriantum lui coupe la tête. La prophétie d'Éther se réalise. Coriantum est le dernier Jarédite vivant. Il est découvert par le peuple de Zarahemla. Éther finit d'écrire l'histoire des Jarédites. Ils ont été détruits à cause de leur méchanceté. Par la suite, les annales jarédites sont découvertes par les Néphites.
Chapitre 53. Moroni et ses enseignements. Après la mort de Mormon, Moroni est seul. Il finit les annales que son père lui a données. Moroni sait qu'un jour, les plaques d'or seront sorties de terre. Les mots inscrits sur les plaques d'or parlent de Jésus-Christ. Ils rendent témoignage et apprennent comment vivre avec droiture. Les Lamanites méchants tuent tous les Néphites qui ne veulent pas renier Jésus-Christ. Moroni ne niera jamais Jésus-Christ. Il va de lieu en lieu, se cachant des Lamanites. Moroni écrit davantage sur les plaques d'or, surtout à l'intention des Lamanites des derniers jours. Il écrit de nombreuses choses importantes, entre autres le texte de la prière de la Sainte Cène. Moroni écrit que seuls peuvent se faire baptiser ceux qui veulent bien se repentir de leurs péchés et servir Jésus-Christ. Moroni veut que tout le monde croie en Jésus-Christ et en vienne à le connaître. Il dit que tout ce qui est bon vient du Christ. Moroni écrit que si les gens aiment Dieu et le suivent, ils peuvent devenir parfaits. Moroni sait qu'après sa mort, il ressuscitera et vivra avec notre Père Céleste et Jésus-Christ.
Chapitre 54. La promesse du livre de Mormon. Avant que Moroni enterre les plaques pour la dernière fois, il écrit une promesse à l'intention des Lamanites et de tous ceux qui liront les annales. Il dit aux gens de lire les annales, d'y penser réellement, puis de demander à notre Père Céleste si elles sont vraies. Moroni promet que si les gens demandent sincèrement, avec foi, au Christ, le Saint-Esprit les aidera à savoir que les annales sont vraies. Moroni écrit que si les gens se repentent, suivent Jésus-Christ et aiment leur Père Céleste, ils peuvent devenir parfaits. Lorsque Moroni a fini d'écrire sur les plaques d'or, il les cache dans une boîte en pierre dans la colline Cumorah et recouvre la boîte d'une grosse pierre. Son œuvre terrestre est terminée.